Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Au bout du foot, une émission 100% football. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés pour cette émission présentée par Eladji Makalou. Avec nous du beau monde autour de la table, Moussa, comment ça va Moussa?
Très bien, très bien.
Bonne semaine de football?
Ah oui, beaucoup de football et ouais, franchement c'était bien.
On a eu des bons débats en off, bien évidemment on va vous en faire part. Et Philippe Carnu qui n'a pas bougé, qui s'est juste décalé, mais voilà, en tout cas Philippe Carnu qui a présenté juste avant Mon Paris Sport.
Ouais.
Comment ça va?
Ah bah moi dès qu'on parle de ballon rond et sport, ça va, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème.
Il n'y a aucun souci, Philippe qui est toujours présent avec nous. Cheikh Kenza, comment ça va?
Très bien.
Bonne semaine de football?
Oui.
La Casablanca.
Une semaine exceptionnelle et tout ça. C'est pas que la Casablanca, il y a eu des matchs chez l'Inter un peu partout en Allemagne, avec beaucoup de suspense et vraiment beaucoup de spectacles pour les fans de football.
Lucas, comment ça va Lucas?
Ça va et toi?
Ça va, bonne semaine de football?
Bonne semaine de foot et de polémique, on s'est régalé dans tous les sens.
Là on s'est régalé dans tous les sens, en tout cas il y a beaucoup de sujets à traiter aujourd'hui. Hein. On va parler de l'équipe de France aussi, hein, en aparté hein, l'équipe de France. On va parler aussi de ce coup de tonnerre de la CAF qui a donné tout simplement la CAN au Maroc. Hein, le Maroc qui ont bénéficié de la CAN sur tapis vert, 3-0 face au Sénégal. Hein, pour l'instant, c'est ce qui a été donné. Mais le match du Sénégal est toujours maintenu au Stade de France le 28 mars, samedi. Au Stade de France où ils vont présenter tout simplement
avec
le trophée.
Pour cerise sur le gâteau, en fait, la présentation du trophée avec un concert de Youssouf N'Dour et Booba.
Youssouf N'Dour et Booba aussi qui seront là.
De la partie.
Exactement. En tout cas, on va y revenir. Ça sera en fin d'émission, bien évidemment. On va commencer traditionnellement avec la Ligue 1. La Ligue 1, le Paris Saint-Germain qui ont tout simplement atomisé Nice, hein, 4-0. Nuno Mendes qui a été tout simplement reconduit à un nouveau poste. Et on a pu voir que ça marche pour lui. Ça marche pas mal pour lui, Lucas, non?
Il est trop fort. Quelle que soit la position, quand il peut prendre la profondeur sur son côté gauche, il a l'air inarrêtable. Il recommence à ressembler au joueur absolument complet et phénoménal qu'on avait pu observer il y a de cela un an. Mais ouais, du coup, très gros match en tant qu'ailier. Sur le match plus globalement, PSG-Nice, j'étais un peu déçu du dénouement. Le premier but, pour moi, c'est pénalty. J'en ai marre de ces pénaltys où on ne sait pas vraiment si la balle touche la main, que même si ça touche la main, ça dévie pas le ballon et il partait dans un 6 mètres ou un corner qui... En gros, il n'y avait pas d'action de but à ce moment-là. Donc je trouve ça vachement frustrant que le premier but... ils viennent de ça et que ça débloque un petit peu le match. Sinon, Paris a déroulé après. Hein, y a Drault qui met son premier but. Ouais. Entre le deuxième et le troisième but, je crois qu'il y a pléthore d'occasions de tous les attaquants parisiens. Donc, gros match de Paris.
Et, petit aparté, j'ai pas envie d'en faire une polémique, hein, mais Désiré Doué. Qui des fois doit la donner et ne la donne toujours pas. On a pu le voir sur des occasions où on aurait pu tuer, parce que là, c'est contre Nice, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si t'arrives demain, tu joues contre Liverpool, le Bayern ou le Real. Si tu fais ce genre de raté, on se souvient à Manchester City quand ils ont joué contre le Real Madrid et qu'ils ont eu je sais combien d'occasions, hein, avec des Mendy qui sortaient des balles sur la ligne, ils voulaient pas se faire la passe, ils voulaient faire la passe à tout le monde, marque, etc. Au final, on a vu comment ça a terminé.
Ouais, je crois que son jeu manque un peu d'altruiste, en fait, de la part de Désiré Doué, parce qu'il veut aussi, en fait, il veut aussi égaler les stats, un peu d'égoïsme, c'est normal quand on est attaquant. Ouais, bien sûr, quand on est attaquant, on se doit aussi, en fait, comme on dit, le football, ça se joue à 11, on se doit aussi, en fait, de toujours faire primer le collectif. Donc, je crois qu'en interne, peut-être qu'ils vont lui mettre un petit rappel à l'ordre. On lui dit, voilà, monsieur, désormais, vous voulez être une grosse star, mais il va falloir faire gagner le collectif.
Je pense qu'ils vont surtout l'encourager à jouer son jeu à la board, enfin, les matchs qui comptent arrivent. Et on a vu les matchs extraordinaires qu'il a fait l'an dernier, notamment contre Aston Villa. Là, il met quand même son but et il met une grosse frappe. Il faut que les frappes rentrent. Et je pense que ça, le plus important, il ne fait pas toujours les bons choix. On ne saura jamais si c'est vraiment lui qui avait été visé par Dembélé quand il a fait sa déclaration.
On pense que si,
mais Dembélé lui-même a démenti. Donc on, bon.
Ouais, il a dit qu'il parlait à tout le vestiaire. Voilà. Mais c'est ça qu'il a dit plus globalement. Que ce n'était pas particulièrement pour Désiré Doué. Exactement. Maintenant, on sait que ça lui est visé. Maintenant, pas qu'à lui. Voilà. C'est un rappel pour tout le monde. Mais pour l'instant, voilà. en tout cas, celui qui avait fait la chose, voilà, il est inclus.
On peut dire qu'il est inclus.
Voilà, il est inclus très fortement. Mais il l'a pas mal pris.
Non, il n'a pas l'air de l'avoir mal pris. Voilà. Visiblement, quand on voit la démonstration aller-retour contre Chelsea, et notamment les nerfs qu'il a fallu avoir à l'aller, on voit que le vestiaire a l'air de quand même bien être soudé, au moins pour ses objectifs terrain. Donc voilà, ouais, Désiré Doué, écoute, il a raté des occasions, j'espère qu'il les mettra après la trêve.
Voilà, en tout cas, le Paris Saint-Germain, qui sont premiers de la Ligue 1, hein, qui sont repassés devant, juste avant, et là, ils demandent le report, tout simplement, du match face à Lens. Les Lensois qui ne sont pas d'accord, hein. Philippe, toi, ça t'embête, hein, ce genre de report.
Moi, c'était Maxence qui le disait l'autre jour, et il avait raison. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça, quoi. Il n'y a qu'en France qu'on reporte des matchs pour des huitièmes et des quarts de finale. En Angleterre, on ne demande pas les reports. En Espagne, on ne demande pas les reports. En Allemagne, on ne demande pas les reports. En Italie. Alors, à la rigueur, ce serait une finale. Aller voir peut-être une demi-finale, ok, mais là, attendez, donc on
il me semble
quart,
que ça s'est
ça
fait, que ça s'est fait et que pendant des années, on disait justement les grands clubs européens, espagnols, italiens, anglais, ils sont favorisés par leur championnat et en France, on ne favorise pas. Avec des exemples, il y a une dizaine d'années.
Ça s'est fait du temps de Bernard Tapie, mais enfin, c'était exprès.
Non, je te parle beaucoup plus récent, je te parle une petite décennie, après... quand Paris perdait toujours en quart de finale, par exemple, les années Laurent
Alors,
Blanc,
je
etc.
Je crois qu'ils l'ont fait il y a 2 ans. Oui. D'ailleurs, ça l'avait pas intéressé parce que je crois qu'ils avaient été éliminés.
Ah mais ils ont tout
quand
eu,
avait fait. Ouais. Non, je crois que c'était déjà un match précédent contre Nantes. Et je crois que c'est l'année où ils sont éliminés il y a 3 ans par le Bayern de Munich ou un truc comme ça. Voilà. Voilà. Moi, je trouve que bon. Il y a trop de reports, quoi. Il faudrait pas. Ouais, on veut favoriser, mais il va y avoir un problème de calendrier parce qu'il n'y a pas 36 dates. Hein. Nantes, on doit jouer la demi-finale de Coupe de France, pendant les demi-finales de Coupe de France. Et je crois qu'il reste une semaine libre qui précède juste la dernière journée de championnat, justement pour profiter.
Et si le Paris Saint-Germain se qualifie pour les demi, alors ça sera encore plus compliqué.
Il faudra laisser le jeu.
C'est ça le problème.
Ça fera une belle finale de championnat à une semaine du terme. Si Paris perd encore un petit point.
Ouais, mais je sais pas si Lens.
Non, je pense pas.
Lens ne veut pas, donc.
Non. Tant pis, ça tombe.
Apparemment, ils peuvent se passer de la décision.
D'accord.
Oui, okay. C'est ça.
Non,
et
c'est les instances
et des proches de la LFP qui ont déjà dit que
à la rigueur, voter pour. Ouais, à la rigueur, qu'on les ménage pour avoir une finale, voire même une demi-finale. Ouais. Ok, mais dès les huitièmes et puis les quarts. Attends. Et en plus, je suis
en
sûr
qu'ils ont...
auraient joué leur match contre Nantes. Ça n'aurait pas changé grand-chose contre Chelsea.
Aussi,
alors,
oui, je pense.
Les équipes qui mènent en plus.
Ils ont déjà une avance. Donc pourquoi leur donner encore pour Lens, par exemple, c'est défavorable pour Lens. Qui fait une année extraordinaire et qui pour un parce que Paris est en demi-finale c'est fait décaler le match
Après les championnats étrangers jouent leur match de championnat avant les matchs de Coupe d'Europe quoi.
Exactement. En tout cas, pour l'AS Monaco, hein, l'AS Monaco qui revit tout simplement, qui renaît de ses cendres, l'AS Monaco qui ont tout simplement battu l'Olympique Lyonnais tout simplement avec un but on peut dire assez litigieux, le deuxième but où il y a faute sur Hendrick ou pas, il y a but derrière, il y a pénalty sur Akliouche ou pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en jeu. Mais en tout cas, l'Olympique de Lyonnais sont inclinés, tout pareil comme l'Olympique de Marseille qui sont inclinés aussi à domicile sans Greenwood. Greenwood qui est sorti sur blessure. Hein. Apparemment, c'est une grosse béquille, mais on va voir dans les prochains jours ce qu'ils vont dire selon son indisponibilité. Mais on a vu que dès Greenwood est sorti, à part le but où Timber sort avec Nwaneri sort de sa boîte, il ne s'est pas passé grand chose. Voilà, ça a été un Marseille très fade de ces derniers jours, mais là encore plus, ce qui est très inquiétant côté Marseille.
En fait, dans le contenu Marseille, c'est très dur. Dans le contenu, là, c'est les dernières semaines, ils gagnaient. Mais dans le contenu, c'est vraiment
c'était
compliqué.
C'était déjà horrible, quelques semaines. Ouais. Là, la semaine dernière, on en parlait.
Là, les faits n'ont pas été avec eux. Parce que pour moi, Lille devait au moins avoir un carton rouge dans les 15 premières minutes. Bon, ça n'a pas été fait. Mais dans le contenu Marseille, c'est très difficile. Là, avec la perte de Greenwood, là, ils vont à Monaco, prochain match après la trêve. Monaco qui, moi, je pense qu'il va finir très fort. Ouais. Ça va être très compliqué pour Marseille, je pense. Ouais.
Mais c'est un championnat qui est complètement fou pour les périodes.
Là, ils sont tous
chacun
collés, c'est
périodes.
Que des séries, exactement. Ouais, ça marche par série.
Ouais, chacun ses périodes d'euphorie, après de moins bien. Ça a été le cas de Lyon qui allait mieux. Bah,
on peut dire Lyon.
Lille qui se refait une petite santé. Monaco qui va mieux après avoir eu un trou. Enfin, donc, si ça se trouve, ça va continuer comme ça.
Lyon, ça a été 13 victoires d'affilée. Et là, c'est 8 matchs sans victoire. C'est catastrophique.
Et Lille, c'était la.
Lille, ça allait pas bien.
Ça allait pas bien. Ça fait 2-3 matchs qu'ils gagnent.
Ils sont fait éliminer cette semaine en Europa League.
En plus, c'est illisible le, enfin pour les troisième et quatrième places et puis
en tout cas à partir des troisième, quatrième, cinquième place tout va jouer, tout est possible jusqu'à la dernière journée, hein, ça se tient en 2-3 points,
c'est ça.
Voilà, tout simplement on est obligé de parler, voilà, je veux accentuer un peu le fait, Marseille avec Greenwood qui s'est blessé, Lucas, est-ce que tu penses que Marseille peuvent aller chercher cette troisième place? Bon, cette deuxième place, on n'imagine sûrement pas, mais est-ce que cette troisième place, puisque là, ils n'ont pas profité du faux pas de l'Olympique Lyonnais pour s'imposer derrière, du coup, est-ce que tu penses que Marseille court à la catastrophe?
Je vais te répondre très franchement. Avant le match contre Lille, j'y croyais encore. Et là, j'ai beaucoup plus de mal à y croire. Mais au-delà de la blessure de Greenwood, c'est parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'effet à Big Bay, tout simplement.
Non.
Il se faisait attendre. On en avait parlé ici même que les seuls moments dans la saison où il a produit du jeu, c'est quand son poste était en danger à Rennes et que sinon on n'a rien vu du tout. Et ben là, on a un Big Bay fade qui en plus prend pas ses responsabilités parce qu'il parle que de l'arbitre contre Lille. Je comprends que la frustration elle soit présente, mais dans son discours d'après-match, je trouve pas mobilisateur. Je trouve pas qu'il est à la hauteur en fait du poste qu'il a. Donc avec Big Bay qui a pas l'air de réussir à rebooster son vestiaire ou des fois des petits effets quand il y a un entraîneur qui arrive et qui peuvent remotiver leur vestiaire.
Un effet déclencheur quoi.
Exactement. Comme je vois pas ça, je suis assez pessimiste pour l'Olympique de Marseille.
Merci. Lucas, Lyon, ça va pas du côté de Lyon, Cheikh. Lyon qui n'ont pas réussi à tout simplement à s'imposer aussi à domicile. Hein. Bon, ils ont eu pas mal d'occasions. Hein. On repense aussi en début à la première mi-temps. En tout cas, ils avaient l'occasion de faire le break.
Oui,
ils l'ont pas fait hein, avec Tolisso, Hendrick, etc. En avant, ils ont eu des occasions assez franches où ils n'ont pas fait tout simplement le break. Et en deuxième mi-temps, bah, ils sont punis,
ouais, pas mal. Voilà. Mais moi, je crois que les Lyonnais, vraiment, dans l'ensemble, ils ont fait le match qu'il fallait, mais le manque de finition, en fait, c'est un peu cruel. Et puis, on a vu une belle paire d'attaque et tout ça. Donc, on a vu que vraiment, Hendrick s'est intégré dans le jeu. On a vu qu'il apportait plus ses courses et tout ça, même ses dédoublements. Mais après, comme on dit, voilà, le championnat, vraiment, il est totalement relancé. Parce que Monaco fait un résultat vraiment qui est favorable et qui arrive vraiment à les faire douter. Il y a l'effet de jeu, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Déjà, l'action vraiment qui amène au deuxième but, en fait, s'il y a faute, tu intrigues ou pas. Mais je crois que l'arbitrage en Ligue 1, on ne peut pas cracher là-dessus. Parce que même si l'arbitrage n'est pas totalement ouf, comme on peut le dire.
Il y a pas mal d'erreurs.
Oui, il y a pas mal d'erreurs. Mais après, c'est ce qui rend aussi le football aussi intéressant. Parce que c'est les erreurs aussi.
Mais c'est des erreurs un peu...
Oui, mais venant de l'arbitre, c'est un peu à décrier. Venant de l'arbitre, c'est un peu à décrier. Mais on ne peut pas vraiment cracher là-dessus quand on regarde ce qui se passe en Liga.
Partout en Europe.
Quand on regarde ce qui a pu se passer en Europa League avec Lyon, il y a de cela quelques jours, donc on voit que voilà, que je crois que c'est peut-être les habits même dans l'ensemble qui sont pas peut-être bons.
Il y a quoi à Lyon? Il est mauvais son tacle à Niakate.
Ah, il mérite le rouge, hein?
Il mérite le rouge. Crase la cheville.
Largement, la faute à Tagliafico quand il le met le deuxième carton. Ben ça vraiment, ça a abusé. La faute à Tagliafico, il n'a pas vraiment le mettre ce deuxième carton rouge déjà qui sont mal barrés. Donc je vois que Lyon vraiment a joué le football qu'il fallait. Mais ils ont manqué peut-être d'ingrédients d'efficacité devant les buts. Et ça se paye cash face à des Monégas vraiment qui avaient le plan de jeu qui était bien.
C'est peut-être le semi-échec du Paris Hendrick. Pour moi, c'est trop difficile de demander à un mec de 19 ans qui s'adapte à un nouveau championnat, de tout cartonner en 6 mois. Donc évidemment, il a du talent, donc il a bien commencé, etc. Il y a eu un peu l'euphorie des débuts. Mais quand il faut faire ça sur la durée, ben, en fait, il ne peut pas jouer tout seul et tirer tout le temps. Il faut qu'il soit dans les systèmes, donc il faut qu'il soit adapté à ses coéquipiers.
Il faut qu'il soit accompagné.
Qu'ils savent comment le servir exactement. Là, on voit que Nouama et Fofana commencent enfin à revenir, mais que ça ne revient pas totalement.
Moreira aussi.
Soulj qui revient aussi, mais voilà, ça fait du monde.
Ouais, Soulj, vraiment, et... c'est. Voilà, c'est
en fait, quand tu vois les deux dynamite entre Lyon et Marseille, j'ai plus d'espoir pour Lyon que Marseille. Parce que Lyon, il y a le retour des blessés et même quand ils ont envie en fait de jouer, ils essaient d'attaquer. Marseille, c'est du plat.
Avec Lyon, avec l'été catastrophique qu'ils ont eu l'an dernier, leur saison reste correcte. Ah oui, Marseille, ils avaient tellement, on en a parlé ici, Marseille, il y avait tellement le truc là, cette année, on va passer un cap, on prend que des grands joueurs internationaux, etc.
Il y avait des attentes, on le voit
avec le recrutement. Je veux dire, Pavard, c'est pas n'importe qui quand tu le prends. Pavard qui vient de faire avec des champions en finale, qui était titulaire indiscutable. Bien sûr, c'est un complet, il n'y a pas de souci.
Bon,
je trouve que sur l'ambition, Marseille a proposé quelque chose et c'est pour ça que je rejoins Moussa. Je suis très inquiet pour Marseille, un peu moins pour Lyon.
Ouais, moi aussi.
En tout cas, on rappelle, il y a deux points seulement qui séparent ces deux équipes-là. Hein. Tout peut se passer du jour au lendemain en sachant que Rennes, eux, ont calé face à Metz, hein, 0-0. Lens, eux, en ont profité et ont étrié tout simplement cette équipe angevine 5-1. Hein. Lens, est-ce qu'ils peuvent croire vraiment au titre, Moussa?
Moi, franchement, Lens, ils peuvent y croire.
Philippe n'a pas l'air d'accord.
Non, moi je pense qu'ils peuvent y croire. Ils ont l'on... Après, c'est Paris. Paris, ouais. Voilà, peut-être que non, Paris peut lécher des points avec la Ligue des Champions. Mais Lens, ils ont une marge par rapport au 3e déjà. Ouais. Donc ils peuvent se permettre. Et après, avec oui. le foot, on sait jamais.
Hein. Il y aura une finale à
son deuxième.
Tiens, je pense pas, mais.
Monaco, c'est quand même une équipe qui a pratiquement battu tous les gros.
Non, mais ils vont finir fort, Monaco. Ils vont finir très fort.
Ils ont battu Lens.
Ils partent de trop loin, mais le retour d'Akliou,
ils sont allés gagner chez tout encore à Lyon. Donc,
Paris, ils ont battu aller-retour.
Donc, c'est une équipe
ils vont finir fort.
Qui souvent.
Et ils vont jouer là contre Marseille.
Ouais, ils ont perdu contre les gros, mais contre les équipes moyennes.
Là, prochaine journée, t'as Marseille contre Monaco, t'as Lille contre Lens. Donc,
il y en a qui vont perdre des points.
Ça va. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont se décider là. Et moi, ça m'étonnerait pas. Et ça joue au Vélodrome ou à Louis II? Peu importe, de toute façon.
Bah, si
ils ont
joué, ça devrait être à Monaco.
Marseille, ils sont pas bons à l'extérieur, donc je ne vois pas où est-ce
qu'on peut les gagner à Marseille. Hein.
Oui, oui, c'est pour ça que je dis peu importe quoi, vraiment peu importe quoi. Voilà, en tout cas, pour la Ligue 1, Strasbourg qui renoue avec la victoire, qui sont imposés en fin de match 3-2 face aux Nantais. Les Nantais qui ont pourtant fait un bon match. Est-ce que tu as suivi, Philippe?
Non, pas trop. Pas Nantes-Strasbourg, mais enfin bon, de toute façon.
Que Strasbourg qui sont imposés en fin de match, Panicelli, Nantes ont mené 2-1 dans le match.
Oui, je
1-0,
sais, mais bon.
Après 2-1, et ils ont montré du bon avec Albin qui a fait une passe décisive, but. C'est un petit message aussi pour son coach qui l'avait taclé un peu.
C'est pas incommode, allez, logique. Ils vont pas rigoler. Mais bon, je pense que malheureusement, j'ai bien peur que les 48, au mieux, ils peuvent aller chercher le barrage. Je dis bien au mieux. Mais ça va être très compliqué, même avec Ali Lozic.
Et en parlant de barrage, les Auxerrois qui ont fait forte impression
ça,
à 10 contre 11, à partir de la 6e minute, ils se sont imposés 3-0.
Voilà. Ça, c'est une belle équipe. La joue le ballon,
Et en parlant des équipes qui jouent un peu le maintien, le Paris FC d'Antoine Comboiré.
Ça, c'est super.
Il s'est sauvé quasiment avec cette victoire.
Comboiré, il a eu un impact. Sur son équipe.
On sent qu'il a.
Moins catastrophique que Nantes, quand même, la situation du Paris FC.
FC, quand t'arrivais là-bas, t'avais quand même des atouts, quand même.
Oui, il y avait des atouts.
T'as déjà des joueurs qui sont assez bons, qui jouent les.
C'était juste dans la tête, peut-être.
Non, mais c'est bien, à un moment, ils avaient peut-être un petit peu peur qu'ils puissent être concernés par la relégation. Là, maintenant, ça y est, ils sont.
Ils vont finir tranquilles.
Ils sont tranquilles, là. Ils sont tranquilles, là.
En tout cas. Et on espère pour eux qu'ils vont l'être. En tout cas, la course à l'Europe et la course au maintien va être... la course au maintien un peu
mais
moins.
Mais
sinon,
ça va être compliqué. Ouais.
Ouais, ça va être compliqué pour eux, on se dit en tout cas pour l'instant. Tout simplement, on va se faire une petite virgule avant de revenir avec la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. La Ligue Casablanca des Champions. Qui se sont imposés à l'Etihad Stadium. On y revient juste après. Le Real Madrid qui se sont imposés 2-1 face à Manchester City avec un but de Vinicius encore. Vinicius qui ne s'arrête plus. Vinicius qui continue d'impressionner tout simplement lors de ses 11 derniers matchs, ses 10 buts et 2 passes décisives. Rien à dire. Satisfait de la victoire, Cheikh, je suppose ?
Oui, bien sûr, satisfait de la victoire dans l'ensemble. Et on a vu que Duntam, City a proposé quelque chose. Ils étaient en fait devant le public. Et on a vu qu'ils voulaient vraiment la qualif, mais il y avait un bloc madrilène déjà qui était bien mis en place et tout. Et Duntam, c'est le Real Madrid qui voulait le score. Après, il y a eu en fait un temps fort de City avec Haaland qui réduit le score. Mais
le fait marquant aussi, un peu un tournant du match, le carton rouge de Bernardo Silva sur la ligne, assez justifié selon toi ?
Oui, bien sûr, oui. Moi, je crois que c'est justifié parce que là, vraiment, il n'a pas vraiment à mettre, à faire sortir le coude parce que le canton pas du coude, en fait, c'est une partie du bras. Donc, je crois que l'arbitre, là, il a été juste et il a fait preuve, en fait, de sang-froid et de professionnalisme.
Il a fait respecter la règle, non ?
Et moi, je crois que Guardiola, en fait, face à ce match, il essaie un peu, en fait, de changer un système. Et ce système, ça a porté ses fruits parce qu'on a vu que déjà les relances, il arrive à les bloquer. On a vu vraiment une équipe des City qui sur les côtés, en fait, qui faisait le surnombre, que ce soit du côté de Doku comme de l'autre côté. Et on a vu qu'au milieu de terrain, ils avaient peut-être une légère avance. Mais vu que le Real Madrid et la Ligue des Champions, c'est une histoire d'amour infinie, ils ont pu les dompter. Ils ont pu les dompter dans le jardin. Et un venu vraiment qui est phénoménal, un doublé encore. qui célèbre de la plus belle manière.
Ah oui, faut en parler de Vinicius.
Hein. Ouais, bah,
en fait,
oui.
Au-delà des buts, l'impression visuelle, oui, les dribbles qu'il réussit, l'impact qu'il a sur son équipe, à quel point il crée la panique dans les défenses adverses. Ouais. C'est,
et
c'est
même
génial
quand le bloc
de
est mal. Et même quand le bloc défensif du Real est mal, avec Vinicius, on arrive à regagner des mètres et tout, disons même 40-50 mètres déjà, les remontées de balles. Et ce qui m'a beaucoup plu ces derniers temps, en fait, c'est son apport défensif, chose qu'il ne faisait pas avant. On a vu que vraiment, par moi, il venait plutôt couvrir le couloir. On a senti un Vini vraiment déterminé à montrer que, voilà, en l'absence de Mbappé, il peut être vraiment le capitaine, le fer de lance de cette attaque.
Moi, sur cette rencontre, voilà, moi, je dois l'avouer, avant. Quand j'ai vu le tirage au sort, je me suis dit, Real, ils n'ont aucune chance. Et
ah
même
bon
là, je me suis dit.
Il y en a beaucoup qui l'ont dit. Sur ce plateau, mais fait, ils ont tous été unanimes.
Ah oui, moi, pour moi,
ils
en fait.
Jamais
non,
été autant unanimes.
C'est surtout parce qu'il y avait les.
Mais surtout la victoire à Bernabéu, dès le début. Je leur disais à Bernabeu. Jason, d'ailleurs, qui était là. Jason, il me disait City, vainqueur à Bernabeu.
Quand tu vois les forces des deux équipes, Mbappé blessé, la défense. Même si City, c'était pas un grand City. Mais les joueurs qu'il y a sur le terrain, tu te dis, mais c'est pas possible. Moi, déjà, quand il y a eu le 3-0 à la mi-temps, je me suis frotté les yeux, mais je me suis dit, c'est pas possible. Et franchement, que le Real ait réussi, ils ont gagné 5-1 quand même contre City. Je crois que de toute leur confrontation, c'est la plus large.
Oui, c'est la plus large. Et c'est la plus méritante en plus.
Ouais, ouais. Et franchement, ce qu'ils ont fait, c'est chapeau à eux et à Arbeloa aussi, qui a même si on le critiquait quand il est arrivé, il a réussi à mettre un équilibre dans l'équipe. Oui. Tout le monde fait. Après, bon, il y a des blessés et tout ça. Bon, c'est à eux de quand ils vont revenir de se mettre
moi,
dans le collectif.
Que ça va être compliqué pour lui.
Moi, je pense aussi. Mais bon, là, pour l'instant, de ce qu'il a mis, le petit jeune au milieu de terrain.
Thiago Pita,
c'est chacun.
Pas que ça, même comment le positionnement des joueurs, le fait de laisser Gouler plus dans un rôle.
C'est ça, Valverde qui fait l'ascenseur.
Assumer que la générosité de Valverde va t'amener sur le côté, comme ça, t'as un côté droit qui est béton.
Qui est animé, un côté droit qui est super animé et qui crée aussi par au moins le surnom, comme tu as dit.
Ah bah, et on voit d'ailleurs les performances de Valverde depuis 3 semaines, c'est absolument exceptionnel. Le match qu'il fait encore dimanche, on va en parler après. Mais
début de saison, j'étais le premier à dire que Valverde.
Sa pire saison.
Le plus mauvais du Real Madrid. Et c'était à juste titre. Hein. Mais maintenant.
Il faisait sa pire saison jusqu'à il y a un mois et demi.
Il faut voir avec le retour de Bellingham comment ça va se passer. Moi, j'ai peur.
Il y a deux retours qui vont un peu fagociter le jeu.
Mais concernant Valverde, c'est Bellingham, je pense.
C'est vrai, c'est vrai.
Parce que des joueurs comme. Bon, après, il a laissé à la cave Gonzalo Garcia. Moi, j'étais pas pour cette idée.
Je pensais qu'il était blessé, moi, depuis quelques semaines de voyage.
Non. Il a préféré mettre Diaz.
Uniquement, choix du coach.
Mais l'attitude, en fait, de Brahim Diaz en neuf, vraiment, comme on dit, par exemple, en faux neuf, moi, je vois que c'est très bien. Parce qu'il arrive déjà à avoir peut-être cette liberté et tout ça. C'est comme, par exemple, qu'on peut dire un 10 en tant que tel, un 10, voilà, avec Vinicius qui arrive à prendre déjà le côté. Donc, ça crée déjà un surnombre et qui arrive à faire déjouer les défenses adverses. Parce qu'avec Gonzalo Garcia, ça serait différent. C'est une attaque fixe. Donc, du coup, alors, on a comme l'impression que les défenseurs, il y aura pas en fait, il y aura un marquage qui est clé, qui est déterminant. Pourtant, avec Brahim Diaz, il y a un peu de liberté, un peu comme le faisaient les coachs espagnols. Donc, disons, c'est comme voilà.
En fait, sa tactique avec Diaz, c'est que Diaz, il est positionné devant, mais Diaz, il recule en 10 et Valverde, il plonge derrière lui.
Ça ressemble beaucoup à ce que
donc voilà, comme
faisait
ça crée un au PSG. Donc ça rend encore en fait le jeu du Real Madrid en fait plus difficile à contrarier et face aux défenses quand on regarde vraiment depuis l'avènement de Ibrahim Diaz en numéro 9, on voit que voilà que le Real Madrid ils étrient les adversaires avec des scorfleuves. Quand on regarde même quand c'est difficile, ils arrivent maintenant à prendre le surnombre. Oui, il y a eu des matchs voilà où
après, en tout cas, on va parler juste de la Ligue des Champions et du match retour hein. Parce qu'ils ont gagné que 2-1, mais le score aurait pu être beaucoup plus large.
Un Courtois.
Le score ne reflète pas la physionomie du match.
Oui, non, Courtois fait des arrêts. Il n'y a aucun souci là-dessus, il faut le dire. Mais dans le sens où on dit, voilà, à partir du moment où on dit Courtois sort les arrêts, c'est parce qu'on sait qu'on a Courtois. Donnarumma n'a pas sorti les balles. Il n'a pas sorti les balles, mais Vinicius les a mis hors cadre.
En plein. Il avait pu avoir 4-0 à la mi-temps.
Voilà. Or qu'il les a mis hors cadre. C'est même pas Donnarumma qui fait les arrêts. C'est lui. Il les met hors cadre.
Il a fini par marquer, mais.
Oui, il finit par marquer. Il sauvait sa prestation. Mais. En fait, comme ça doit se terminer.
C'est ça avec Vinicius. Ça
doit être fini. Parce qu'il y a eu quand même quelques petites frayeurs, même si c'était à 10. Parce que Manchester City jouait mieux à 10. Faut le dire. Manchester City jouait mieux à 10.
Qu'à 11 même.
Oui, il jouait mieux à 10.
De toute façon, il devait marquer. Donc, il fallait jouer.
Oui, il fallait jouer, bien évidemment. Mais je pense que si tu mets déjà 2-3-0 à la mi-temps,
c'est fait calme. Ouais,
je pense que ouais. Voilà,
le match est plié. Le match est plié.
Voilà, il fait les changements. Il se dit on a la FA Cup à aller chercher, la Carabao Cup à aller chercher le week-end. On s'arrête là. Voilà. Mais en tout cas, c'était ça pour le Real Madrid.
Je anticipé, Manchester City, Real Bayern. Ça va être une affiche honteuse.
C'est le plus beau de ces cartes.
Et moi, je crois qu'il y a un joueur qu'on en parle peu, c'est Tchouaméni. Parce que il y a quelques saisons, vraiment, il était décrié.
On peut en garder pour la Liga, s'il te plaît. Merci, monsieur.
Tchouaméni, c'est phénoménal.
On va en garder pour la Liga, monsieur. On va juste poursuivre parce qu'il y a eu d'autres matchs. Hein. Tu nous parlais du Bayern, Philippe. Oui. Bayern qui ont tout simplement écrasé l'Atalanta. Il n'y a pas eu match. 6 buts à 1 match aller, jeu de 7 et match retour, 4 buts à 1. Tranquillo, tout simplement.
Il n'y a pas eu de match.
Et le Bayern qui affronteront le Real Madrid.
Ouais, ça va être l'affiche. En général, d'abord, ça donne toujours des très beaux matchs. Le Bayern Real,
ton favori.
D'une façon
générale. Je suis obligé de te le demander, Philippe, tu sais.
Allez, légèrement, peut-être un petit peu le Bayern, mais bon.
Ah ouais, quand même.
Bon. Ça va être
Parce que Olysée,
oui.
En fait, le bar, c'est un rouleau compresseur. Là, ils sont en mode on veut tout avoir. Là.
Donc, aussi, tu penses
Moi, je légèrement Bayern. Pour moi, c'est Bayern. Mais avec le Real, on est champion, on sait jamais.
Exactement ce que dit Moussa, parce que pour moi, Bayern, c'est quasiment le favori des favoris. C'est pas le gagnant que j'aimerais voir, mais pour moi, depuis le début de saison, quand je les vois, je me dis qu'elle a une bonne tête de finaliste et
qu'elle est plus constante.
Et même au-delà de la constance, mais sur un match, quand Luis Diaz, Harry Kane et Olise sont dans la zone, comme on dit, bon courage pour les défenseurs.
Et
bon courage pour Tchouaméni, du coup.
Bon, moi, vraiment, quand je regarde les stades de confrontation directe, je crois que 13 matchs, 3 victoires que pour le Bayern, 2 aux États-Unis, 8 victoires.
Tu parles de quoi?
Ah, l'historique. Il parle de l'historique.
Mais on sait vraiment que, voilà, que le Bayern, vraiment, comme on dit, c'est l'ogre. C'est l'ogre. Voilà.
Bah, actuellement,
le Bayern,
oui.
Ouais, ils ont fini, en fait.
Après, le Real est la bête noire du Bayern.
Oui. Voilà, oui.
Le Real est la bête noire du Bayern.
Ils ont fini en tête liste, mais chaque fois qu'une équipe, redoutable et douée du Bayern de Munich affrontait le Real Madrid, on a comme l'impression que, voilà, que ça s'est joué, en fait, sur des petits détails. À chaque fois, oui, même quand le Bayern supplantait, dominait la rencontre, le Real arrivait à faire cette petite magie du mercredi soir. Vous les faites dérouter, donc je crois que je suis pas vraiment pessimiste, je suis optimiste. Mm-hmm. Je me dis que voilà que
non, c'est possible.
Que voilà, les Merengues ont quoi vraiment,
c'est
ils ont quoi
qui peuvent aller à la prolongation.
Ils ont quoi vraiment à faire douter, même faire vaciller en fait ce navire.
Moi je pense que
je trouve un peu arrogant. Je trouve un peu arrogant quand même.
Non, pas arrogant.
Non, il est pas arrogant. Il est juste un peu sur de lui.
Il est pas arrogant, c'est ce que je dis en fait. Parce que en fait, il y a deux années,
il a le droit.
Il y a deux années de cela, le Bayern partait favori.
Parle comme s'il était favori. Attends.
Non, il y a deux années de cela, il y a un truc qu'on n'a pas compris.
À Santiago, je pense qu'ils le sont. Non, même pas. Même, tu penses à Santiago.
Le premier match est où?
À chaque année où le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, ils n'ont jamais été favoris. Chaque année où ils la gagnent, ils ne sont pas favoris. 2022, ils ne le sont pas.
Le Real.
Ouais, 2022, ils ne le sont pas.
Que le Real puisse.
2024, ils ne le sont pas.
Que le Real.
Mais c'est sûr des faits de jeu qu'ils arrivent à faire douter. Mais les Bavarois, au final, qui gagnent.
Déplacer des montagnes, je te l'accorde, ça arrive pas tous les ans non plus. Faut arrêter, vous avez 13 Ligue des Champions, pas 46, enfin 15, mais pas 46.
Non, 15, c'est 13.
Pas 46,
il reste plus court de dire 22. C'est pas grave.
C'est pas grave. La dernière, ça va trop loin. Il y a trop d'écart. C'est pour ça que c'est Bayern qui va gagner. Il y a trop d'écart.
Non, il y a pas trop d'écart. Moi, je vois pas.
C'est pas grave, messieurs. Excusez-moi. De toute façon, on a encore une semaine la semaine prochaine pour en parler. Parce que là, déjà, il y a la trêve. Ceux qui vont jouer avec les pays, on espère qu'il va pas avoir de nouveaux blessés aussi. On espère qu'il y aura des retours. Tout ça, en tout cas, ça sera à prendre en compte, bien évidemment, messieurs. Du coup, on va juste poursuivre. Hein. Chelsea, qui se sont fait très largement dominer par le Paris Saint-Germain, 3 buts à 0. Il n'y a pas eu match. Hein.
Non. En un quart d'heure, c'était réglé.
Voilà, il n'y a pas grand-chose à redire. Ouais. Voilà, pour ce match-là.
Paris a joué Liverpool, en maître, ça c'est bien.
Liverpool, qui ont renversé Galatasaray, un petit but. Ouais. Et là, ils en ont mis 4, tout simplement, à domicile. Ouais, et ils ont eu pas mal d'occasions.
La première mi-temps est quand même très disputée. Et quand ils ont mis le premier but en fin de première mi-temps, ça les a cassés Galatasaray. Et au retour des vestiaires, il n'y a pas eu match.
Moi, je crois que le penalty de Salah loupé juste avant la mi-temps.
En fait, le problème de Galatasaray, il défendait à 10 et il n'arrivait plus.
Ozimène, c'est 50% de l'équipe. C'est 50% de l'équipe. Quand tu vois un gars avec Ozimène et sans Ozimène, c'est pas pareil. Je crois que ça. C'est un peu en fait.
Non, mais après, Liverpool, c'était chez eux.
Même en Anfield. Mais je crois qu'avec Osimhen, il n'y aurait pas eu 4. Le score n'aurait pas été là.
Je pense pas qu'ils seraient qualifiés.
Oui, peut-être que Galatasaray auront mis un petit but, mais ils ont quand même été éliminés, je pense. Ouais. Du coup, il y a eu aussi FC Barcelone qui sont imposés face à Newcastle. Une première mi-temps très rythmée, avec un pénalty qui a été donné Pour le 3-2, très litigieux. Il y a pénalty, clairement. Je pense qu'il y a pénalty, même pourquoi pas carton rouge même. Aussi, ouais. Je pense que même je donne carton rouge sur cette action-là. Mais juste avant, t'as pratiquement la même chose.
La même chose, de l'autre côté.
Que tu ne siffles pas. Ouais. Ce qui fait un peu jaser, on peut dire ça comme ça. Et après.
Ils ont déroulé.
Après, deuxième mi-temps, de toute façon, même Newcastle.
À 2-2, franchement, quand on a l'impression que Newcastle, même s'ils sont dominés dans le jeu.
Ouais, il repiquait en fait, il repiquait, repiquait, repiquait.
Les deux buts, c'est les mêmes. La défense du Barça, encore une fois, elle est trop haute. On a l'impression que l'Europe entière voit ce défaut, mais qu'ils ne veulent pas le travailler parce qu'ils assument un système de jeu, ce qui est tout à leur honneur. Mais des fois, tu vois des buts et tu as l'impression que c'est trop facile en fait.
Au début, Newcastle pressait les 5-6 premières minutes. En tout cas, du moins jusqu'au but. C'est le but vraiment qui les casse. Sinon, c'est Newcastle qui sont en train de dominer la partie. Et le Barça même, on se dit, mais. Ils savent qu'ils jouent un huitième retour là ou voilà, c'était compliqué. Mais dès que Rafinha a délivré tout simplement les siens, même si Elanga a très bien répondu derrière.
Mais à partir du 3-2 quand même.
À partir du 3-2, juste avant la mi-temps, le 3-2 de penalty, truc, etc. Ça, je pense que ça casse un peu le moral aussi. Là, tu rentres pas avec le 3-2 à la dernière seconde. Je pense que ça casse le moral. Et quand tu reviens, tu te dis on est mené,
on pousse au final, ils marquent encore.
Il y a eu tellement de buts dans cette première période, c'est qu'avec Newcastle qui revient déjà au score deux fois, moi j'avais l'impression que, en tout cas, Newcastle pouvait espérer revenir. Je trouve que le Barça a aussi envoyé un message en étant, une fois qu'on est devant, on lâche pas quoi, et en vrai ils les ont écrasés, et au final le score il est sans appel, donc moi j'ai quand même, sur la fin de match, j'ai quand même été plutôt impressionné par la façon dont le Barça a géré les événements avec calme, sans paniquer, et au final ils l'ont remis la rouste qui était attendue.
Qui peut comme PSG, je le dis.
Yamal, il a fait un match.
Un match extraordinaire. Ouais.
Oui, en première mi-temps.
Non, pas en la deuxième mi-temps. Juste la deuxième.
Il a étalé sa classe en fait.
Ah, la deuxième, il s'est repositionné.
Et on a vu qu'entre les deux équipes, vraiment, il y a un écart. Oui, il y a un écart en fait. C'est pas les mêmes classes.
Mais contre la
Fiorentina. Newcastle ont tout raté à domicile, tout simplement. C'est ce qu'on disait un peu. Tottenham qui se sont imposés 3-2 face à l'Atlético de Madrid, ils ont au moins sauvé l'honneur en gagnant domicile sans deux buts concédés. Maintenant là on est obligé de repenser aux deux buts concédés du gardien qui les a offerts tu te dis ah là ça aurait pu jouer sur ça, sur les détails que ça se joue
Après Tottenham cette année franchement
il y a rien à sauver.
C'est compliqué. Là ils sont à un point de la relégation.
Ils ont 15 blessés, c'est plus dur. Mais après moi je pense je vais même dire pire. Je pense que Tottenham n'arrive pas à se faire ce match-là s'ils sont pas autant en retard. Ils ont été très motivés parce que voilà, faut faire l'exploit, faut lancer un truc, faut sauver l'honneur.
Sauver l'honneur,
mais
c'est
si le match est serré, je vois l'Atlético continuer à gérer comme ils l'ont fait et non franchement Tottenham c'est catastrophique. Catastrophique, j'ai pas les mots.
Voilà en tout cas pour cette équipe de Tottenham. Bodo Glimt qui se sont fait atomiser par le Sporting. Elle était là, la remontada. Sporting,
sincèrement,
je n'aurais
pas cru.
Après,
sincèrement,
je n'aurais
pas cru.
Moi non plus.
Ouais, je ne croyais pas.
Ouais.
Après le match aller, j'ai dit bon.
Mais il n'y a vraiment rien eu.
Il n'y a plus de jus.
En vue du match, le Sporting ont dominé les deux de fond.
Non, on dirait qu'il n'y a plus de jus. Même devant les cages, ils tirent à côté, ils faisaient des passes à côté.
Ils ont raté des occasions un petit peu inhabituelles quand tu vois la précision qu'ils ont à domicile.
Mais par contre, le jeu, c'était moins fluide.
Mais par contre, Sporting à la maison, avec le public et tout, c'était une sacrée ambiance.
Jason nous avait prévenu d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Je me rappelle, contre
Paris, c'est vrai.
Voilà en tout cas pour le Sporting qui se sont imposés 5-0. Arsenal qui se sont imposés 2-0 face au Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen tout simplement
qui n'a pas montré grand chose non plus.
Ils ont fait l'essentiel.
Moi, je reste convaincu qu'Arsenal peut se faire sortir par n'importe qui en Ligue des Champions.
Donc là,
Sporting,
ils font pas peur.
50-50.
Ils font pas peur.
Quand tu vois là, Sporting vont jouer à domicile. En premier truc, s'ils prennent l'avantage là. Et qu'Arsenal ils réussissent à piquer, parce qu'Arsenal on sait que c'est une équipe qui peut dominer pendant 90 minutes, avoir 40 tirs à la fin du match.
Cette année moins 40 tirs quand même, tu vois, ce côté-là, 40 tirs moins. Et moi je pense que on l'a vu avec le City ce week-end, quand Arsenal se rate, il se rate pas à moitié. Et des fois ils font des non-matchs.
En fait, ils font le strict minimum, j'ai l'impression.
Arteta qui veut ça.
Alors qu'ils ont les qualités, mais même les joueurs de qualité qui font la différence, ils sont pas là.
Ils
donc
sont sur le banc aussi, c'est les choix d'Arteta. Le 11 choisi avec Trossard et Havertz titulaire, j'ai dit c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon.
C'est vrai, il n'y a pas de dynamiteur, il n'y a pas de. C'est les mêmes profils à chaque fois.
Et il y a un truc qui m'énerve, ça va être sur la saison de Eze. Tout le monde va dire en fait. Il s'est réveillé que dans les matchs face à Tottenham, alors que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il a commencé, il a eu des difficultés. Au moment où il commence à enchaîner, qu'il marque. Odegaard revient et Arteta le met au placard et il le ressort comme
quand
ça
Odegaard
un match de temps
là,
en temps
voilà,
exactement de... mais Eze il a pas de continuité, c'était pourtant la meilleure recrue pour moi d'Arsenal cet été,
il a un beau but en plus.
Donc ouais bah il est, je pense que depuis qu'il s'est adapté, quand il fait des matchs il les fait pas à moitié, et pour moi c'est totalement les choix d'Arteta qui sont à remettre en question, à l'image d'un Guardiola quand ça monte il commence un petit peu à paniquer. Et donc moi vraiment je te le dis, je pense que si Sporting sort Arsenal j'aurais absolument aucune surprise.
Merci monsieur. En tout cas, un petit pronostic pour PSG-Liverpool.
Ekitike s'est blessé, on peut en parler.
Non, mais non, il revient, c'est bon.
Il revient
oui, bah oui. Là, il est en équipe de France.
En fait, c'était plus de peur que de mal. Ouais. Ils ont fait des analyses, il n'a rien.
Parce que moi, on a parlé d'une autre béquille, d'un joueur qui devait être absent et qui a eu une
béquille. Oui, lui, il a eu une béquille.
Non, même, il a même pleuré.
J'ai vu que c'était béquille.
Il a même pleuré, Ekitike, mais en fait, ils ont fait des analyses. Il est même avec l'équipe de France.
Oui, il aura France. T'as pas vu son outfit.
J'ai vu son magnifique pantalon.
C'est Isaac qui revient aussi.
Isaac revient. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle.
Ouais, mais après, je sais pas, il sera à quel niveau, non, mais il revient. Il est là pour la
deux semaines pour se refaire. Je vois Paris légèrement favori dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'avec les retours des attaquants, c'est moins.
On connaît bien hein, cette histoire que le Paris Saint-Germain a avec ses anciens joueurs et son espèce d'étiqueté.
Il va marquer.
Peut-être pas le but décisif. Enfin, je pense pas le but décisif.
Parce que là, je pense qu'il aura à cœur de faire un bon match.
Mais
parc.
Par contre, je vois Paris gagner.
C'est sûr.
Je vois Paris devant parce que Liverpool a pas mal de largesse défensive. C'est pas
ouais,
cette année-là.
C'est pas fort.
Collectivement, c'est pas abouti.
Même au milieu de terrain, Craven, ils sont bons, mais c'est pas
ouais,
le.
Ouais, à part ce là il y a pas vraiment quelqu'un
oui,
qui sort du lot.
C'est Sobosa qui sort du lot.
Oui,
ouais,
après, il a beaucoup joué latéral droit aussi. Il a un peu dépanné partout. Ouais. Donc après, il met tellement des.
Mais je vois Paris
magnifique cette année. Ouais,
quitte avantage au PSG, mais on risque d'avoir deux matchs comme là.
Oui, oui, ça va discuter. Ça va discuter.
Plus même prolongation. Ça sera pas comme Chelsea.
Je pense que. En tout cas, peut-être que ce sera aussi serré, mais je pense que le sommet d'intensité qu'on a eu l'an dernier, avec le match où chaque ballon était surdisputé, où tu sais, un espèce de chef-d'œuvre tactique où il n'y a jamais une faille, où il faut vraiment toujours faire le surnombre, où tout le monde est. Voilà, je pense qu'on ne l'aura pas.
FC Barcelone, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid qui les ont sortis les deux dernières fois où ils sont croisés en Ligue des Champions, hein, jamais 203.
Non, ouais, jamais 203.
En fait,
je pense que ça va.
Le Real se qualifie et le Barça perd, c'est facile pour le
Barça. Non, mais c'est juste mon opinion. C'est juste mon opinion. Et
en tout cas,
vu vraiment ce qui a été proposé.
T'es en train de le troller, Lucas.
Vu ce qui a été proposé aussi, en fait, quand on a vu dernièrement en Coupe, voilà, on a vu que l'Atlético aussi mettait les moyens. Il savait vraiment de quoi en fait douter. Et voilà, et même à terrasser cette équipe de Barcelone. Donc. On sait généralement qu'avec le cholisme, soit c'est le match aller qui aboutit, soit c'est le match retour qui aboutit en fait. En tout cas, parmi les deux matchs, on sent que l'Atlético aura son match. L'Atlético aura son match à lui. Où ils vont vraiment.
Bah ça va jouer un peu comme la Coupe du Roi. Hein. Ils auront le premier match à domicile.
Voilà.
Et
donc
après, match retour au Camp Nou.
Donc à l'aller, si vraiment ils mettent les moyens, ils mettent le nécessaire et l'envie qu'il faut, je crois que voilà, Barcelone ils sont dans des sales draps comme on dit.
Ah ouais.
En fait, moi je pense que si on veut voir de bons matchs pour ces matchs-là, parce que c'est deux équipes qui se connaissent.
Bah oui.
Et deux oppositions.
Moi je pense.
Après, vous croyez pas
non. Non, moi
Real
je pense
Madrid,
que.
Madrid en finale, ça serait pas beau.
Il y en a eu deux.
Non, parce que non, de l'autre côté, non.
Il y a eu deux finales comme ça.
Mais c'est possible, mais non.
Vous croyez pas à ce remake 10 ans après.
Non, je crois pas.
Si le Real joue l'Atlético en finale.
2014-2016, ils auraient pu dire deux ans après.
Je crois que le Real va. Va les éteindre parce que c'est une équipe qui nourrit.
Le Real, t'as tout le monde quoi.
C'est
facile pour lui.
Si t'es Real Barça en finale.
Ouais, ça peut être Real Barça aussi.
Ça peut être Real Atlético, carrément.
Comme ça peut être Bayern Barça. Ça peut être
Barça. Bah oui.
Mais en tout cas, j'ai hâte de voir cette opposition de style parce que vraiment, on connaît les philosophies complètement opposées du Barça et de l'Atlético. Et quand même, je trouve que l'arrivée de Lookman. Qui met encore un magnifique but ce week-end. Elle donne un truc.
Tout, en fait.
Et avec Griezmann qui accepte son rôle de remplaçant, qui joue plus tous les matchs, mais quand
qui
il joue, il est très bon.
D'ailleurs, va signer à l'Orlando City.
Ouais, ça a été officialisé, ouais. Mais tu vois, avec Griezmann qui est toujours là, Alvarez qui revient un petit peu, et Lookman qui fait quand même des sacrés débuts, je me dis, allez, sur deux matchs, pourquoi pas, mais je mets quand même le Barça favori, moi.
Ça marche. Je pense qu'on a fait toutes les équipes, là, non?
Ouais, on a fait tous les quarts.
Ouais, on a fait tous les quarts. Voilà pour la Ligue des Champions. On va poursuivre avec la Ligue Europa très rapidement. Lyon à 10. Hein, tout simplement, s'incline face au Celta Vigo 2-0. Ça, les amis, je vous l'avais dit.
Bah, dis, non, c'est le Tavigo, ça joue. Celta Vigo, c'est ça joue.
Je vous avais dit que Celta Vigo vont les sortir. On me disait non, Celta Vigo
vont
pas
les
sortir. Non, ça joue. Oui, mais après, comment je vois le Celta Vigo en Liga, je sais que le Celta Vigo vont sortir cette équipe de Lyon.
Ils jouent très bien, franchement.
Je les vois jouer au football.
Ouais, ouais, ça joue très bien.
Ils jouent au football. C'est une équipe qui joue au football.
C'est une déception quand même. Exactement. En tout cas, Lyon 8e.
Je m'attendais pas forcément à une élimination, mais j'avais souligné le fait que le Celta, c'est typiquement le genre d'équipe qui fait du mal à Lyon et qui
ça joue bien.
Au-delà de jouer bien, ils savent jouer collectivement. Ça veut dire qu'il y a.
Oui, c'est une équipe.
Exactement.
Le ballon, ils le savent le maîtriser. Hein.
Si Lyon, ils sont pas vraiment au-dessus avec les joueurs qui sont au-dessus, si on est au même niveau collectif, ça peut passer en faveur des Espagnols. Et voilà, il y a eu des faits de jeu qui ont fait que. Mais pour moi, ouais, le Celta a totalement mérité de passer.
Sur
le match aller aussi.
Oui, le match aller, c'était à 10 contre 11. Ils ont réussi à marquer sur une bourde un peu du gardien. Ouais. C'est là qu'ils en ont pas profité. Et là, Celta Vigo ont montré que eux profitaient. Clean sheet,
11 contre 10,
2-0.
Ils rigolent pas.
Tout était propre en tout cas. Cette équipe lyonnaise qui a été éliminée tout simplement de la Ligue Europa. Lille aussi qui se sont inclinés 2-0 face à Aston Villa. Eux qui n'ont pas réussi à marquer ni au match aller ni au match retour. Aston Villa qui s'impose. C'était un peu comme il y a 2 ans, il me semble. Qui était tombé sur Lille aussi.
C'était au penalty, il avait gagné.
Les deux buts qu'ils mettent en plus, les contres là, assassins.
Ah, des bonnes relances du gardien.
Les deux buts là, Martinez, sa relance, elle est incroyable.
Strasbourg qui ont fait match nul face à Rijeka, mais.
C'est pas passé long.
C'était chaud.
Attention.
Ça n'a pas été si évident.
C'était chaud.
Mais comme ils sont imposés au match aller. Ce qui a permis aux Strasbourgeois d'aller défier tout simplement Mayence en quart de finale.
Ça sera un peu plus compliqué.
Ça sera plus compliqué, Bon, après,
je pense qu'ils ont pris confiance quand même.
Après, le voyage n'est pas très loin. Ils sont à la limite de l'Allemagne. Ça, au moins, c'est l'avantage pour eux. Mais en tout cas, Mayence, c'est une
Un peu plus compliqué.
Équipe. Ouais. Ça va être compliqué, mais ils sont obligés de monter en niveau.
Ah, bah oui, c'est simplement.
Ils montent en niveau. Parce que tu vois, on a vu des équipes françaises qui. Donner tout souvent, mais qui n'arrive pas à mettre le but. Et là, Barco, il va s'arracher pour le mettre son but. Hein. Franchement,
ils ont un bon Panicelli devant.
Ils ont un beau gardien, ils ont une saison qui fait des matchs de plus en plus sérieux.
Strasbourg, c'est une équipe qui joue, qui. Oui. T'as envie de les voir jouer en fait.
Ils sont encore en lice, en Coupe de France.
C'est la seule sur les trois tableaux d'ailleurs.
Ce milieu de terrain, moi, El Mourabet, Enciso devant et Barco, franchement, j'adore. J'adore.
Voilà en tout cas pour la Coupe d'Europe, messieurs. On va faire une petite pause avant de revenir avec Cheikh.
La Liga.
La Liga, exactement.
La Liga Santander.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans les locaux de Mon Paris FM, il est 21h24 si vous venez de nous rejoindre. Nous avons parlé de la Coupe d'Europe, nous avons parlé de la Ligue 1 et nous allons parler de la Première Ligue et de la Liga. On commence par la Liga. Le FC Barcelone s'impose assez difficilement face au Rayo Vallecano. Hein. L'homme du match a été Garcia, tout simplement. Ça en dit long sur la performance des Barcelonais à domicile. Et le Real Madrid qui sont imposés 3-2 grâce à un doublé de Vinicius Junior et un but de Valverde. Et qui reviennent à 4 points du Barça et ils restent à 4 points du Barcelone. Athletic Bilbao qui sont imposés 2-1 face au Betis Séville et qui eux qui renouent avec la victoire après 3 défaites
les
consécutives.
Bacs, vraiment,
toutes compétitions confondues. Oui, Celta Vigo renversé après avoir mené 3-0 face à Alavés. Alavés qui sont revenus et qui ont tout simplement pris l'avantage 4-3. Oui, 4-3, un match fantastique.
Ouais, spectaculaire.
Un match spectaculaire. Villarreal s'impose assez aisément 3-1 face à la Real Sociedad. Messieurs, quelles sont vos impressions sur cette journée de Liga?
Belle journée avec
beaucoup de buts.
Avec beaucoup de buts et, comme on dit, les grands vraiment ont pu tenir leur rang, respecter vraiment la hiérarchie. Le Real Madrid qui s'impose, même dans la douleur, avec un Atlético qui a été très bien en fait. Beau spectacle au Bernabéu. Oui, on a vu déjà que l'Atlético, c'est pas vraiment ce Cholis qu'on avait l'habitude de voir. J'étais même surpris en fait.
Il a plus l'effectif pour de toute façon.
Ouais, ça répare de derrière. En fait. Ouais, ça répare de derrière la construction de jeu. Voilà, derrière l'Anscoot, en fait. Il y a le 6 qui vient chercher le ballon. On a vu que le terrain est bien fourni. Et on a vu aussi que voilà, qu'ils ont des bons joueurs en fait, comme Molina, vraiment avec ses frappes qui sont exceptionnelles. Voilà. On sait que voilà, qu'il peut tenter 10, il peut en mettre 2. Voilà, sur un ratio. Donc, et. Comme toujours, comme d'hab, il y a toujours en fait Vinicius qui est là pour sauver la maison. Quand elle brûle, sans un Valverde, vraiment. Sinon, le Real n'a pas été en fait ultra dominant. Je crois que le Real a proposé des choses. Le Real,
ils ont, quand même fait un très bon match.
En
fait,
oui, ils ont proposé des choses.
Dans le micro, s'il te plaît, Cheikh.
Ils ont proposé des choses, mais à mon avis, je crois que ce Real-là, le Real qui a affronté City deux fois, aurait pu vraiment proposer mieux plutôt. Mais vu que l'Atlético.
Non, pour moi, c'est l'Atlético Madrid. En fait, l'Atlético Madrid, eux, ils ferment le jeu, mais dès qu'ils se prennent un but, c'est là qu'ils se réveillent.
Ouais,
mais pour moi, c'est trop tard. Mais pour moi, le match commençait à se dérouler hier. Le Real a fait son match. Hein. Le Real a tenté.
Ils ont même mieux joué contre eux que contre Manchester City. C'est le match retour.
Ils ont marqué un très beau but, l'Atlético Madrid, le 1-0.
Le premier.
Magnifique.
Le premier, c'est Lookman avec cette talonnade de Simone. Et après, en fait, il y a le Real qui répond.
Justement, le Real répond parce qu'ils sont dans leur dynamique. Ils veulent répondre. Et c'est là, tu vois, l'Atlético Madrid qui sort, qui a le ballon, alors que pendant toute la première mi-temps, ils sont là, ils sont restés.
À 2-1, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, le Real a reculé, ils ont laissé le ballon en fait à l'Atlético. Je ne sais pas si c'est l'Atlético qui a pris le dessus, mais on a vu que, voilà, que c'est une équipe vraiment qui est joueuse. Il y a du potentiel, il y a du talent.
Ils savent qu'ils peuvent repartir en contre.
Oui,
c'est une force du Real aussi.
Tu laisses la balle à une équipe comme ça qui ne se découvre pas beaucoup pour qu'ils avancent, pour qu'on puisse les piquer derrière.
C'est des momentum dans les matchs, c'est comme ça.
Le troisième but de Vinicius, c'est ça en plus.
Non, oui, avec le troisième but. Déjà, Trent, je crois qu'il y a deux satisfactions.
Il a cassé deux, trois lignes.
Ouais.
À ce moment-là du match, je trouve que c'est fort Vinicius en ce moment.
On est en train de retrouver le Trent il y a deux saisons. Et moi, ma satisfaction, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est Tchouaméni. Ma satisfaction, c'est Tchouaméni, parce que je crois qu'Aurélien Tchouaméni, après tout ce qu'il a pu subir comme critique et tout ça, ils ont été durs avec lui du côté, en fait, du côté de Madrid.
Est-ce que c'est pas normal, Cheikh? Est-ce que là, tu trouves pas quand même qu'il vit sa meilleure période au Real, Tchouaméni, et qu'on aurait pu espérer ce niveau-là? Et même
depuis son arrivée,
du niveau, quand tu vois le joueur que c'était à Monaco, cette espèce d'assurance qu'il n'avait pas, parce que c'est un joueur
le régulateur.
Exactement. Et en fait, il a les clés du jeu. Il sait faire autre chose que de récupérer des ballons. C'est quand même un joueur qui est assez complet, Tchouaméni. Et moi, je trouvais qu'il était utilisé de façon stéréotypée au Real. Et là, depuis deux mois, on a l'impression qu'en fait, il a trouvé ses marques.
Quand la passe de Kimi à City.
Exactement. On en parlait en début de saison parce qu'il a fait deux, trois fois du jeu long et on le voyait pas les années dernières le faire. Et donc voilà, en début de saison, il a fait des choses, il a eu un petit creux, et là il revient depuis quelques mois. Et je suis d'accord avec toi, mais j'aurais aimé que ça arrive plus tôt pour Tchouaméni.
Mais moi je me dis que voilà, ça peut être dû aussi au changement d'entraîneur.
En fait, c'est compliqué. Un jour tu joues en défense centrale, mais c'est pas possible.
Valverde
latéral, ça allait quand même, même s'il était mauvais après quand on le remettait dans l'axe au milieu de terrain. Mais là maintenant, regarde. En fait, moi, je pense qu'un joueur, tout simplement, n'importe quel joueur, tu peux être beau et fort comme tu veux, mais si demain, même Mbappé, il a eu ce moment où on l'a beaucoup critiqué, mais il jouait en attaquant pointe, il jouait pas à gauche au Real. Du coup, le fait que tu trouves tes marques, etc., et encore là, t'es juste buteur, du coup, t'as un instinct de buteur, mais quand c'est un autre travail où on te demande de récupérer des ballons, redistribuer derrière, aligner la défense, repartir de derrière, reconstruire le jeu, je pense que si on te met en défense centrale avec des défenseurs centraux soit c'est Eder Militao, soit c'est je ne sais qui
soit c'est Hussein, c'est pas une paire complémentaire.
C'est très compliqué.
Tu as raison, et pour moi, un des problèmes, c'est qu'on demande aujourd'hui aux joueurs beaucoup trop de polyvalence et qu'on oublie qu'en fait, quand ils sont mis dans les meilleures dispositions, c'est là qu'ils vont nous donner des performances XXL.
Et il y aura le dépassement de fonction aussi, comme on dit.
Bah oui, et ponctuellement, tu peux dépanner, mais quand on demande à Tchouaméni, comme l'an dernier, de faire deux mois dans l'axe, bah évidemment, au bout d'un moment,
c'est normal qu'on ait un joueur catastrophique. Mais après, même ça, quand il revenait au milieu de terrain, c'était pas les Tchouaméni.
Moi je pense au Real, c'est beaucoup un problème d'équilibre. Là, Tchouaméni, il s'est imposé, mais parce qu'au milieu de terrain,
il y avait un mec qui touche beaucoup de ballons.
Voilà, il manque cette passe. Il a pris sa place et là, il a dit c'est mon carré, c'est à moi de gérer et il le gère très bien. Maintenant, avec les retours, bon, il a avec sa confiance, donc je pense qu'il va continuer. Mais il faudra voir comment ça va se passer au milieu de terrain parce que.
Mais après, Valverde aussi, hein, parce qu'il n'aura plus son rôle aussi clair de.
Bah, c'est ça aussi, c'est ça. Est-ce que ça va pas.
Déséquilibrer l'équipe?
C'est ça. En tout cas, dans la compo actuelle, moi, je pense qu'il faut que. Pour moi, Valverde, tu le mets ailier droit, là, comme Ancelotti l'a mis là.
Ouais, dans le 4-4-2 d'Abellois.
Et par contre, il faut faire comprendre à Bellingham, reste au milieu, quoi.
Ouais, mais...
Le problème, c'est que s'il voit que Mbappé ne fait pas les appels de neuf dont ils ont besoin, il va aller les faire à sa place. Ouais. C'est toute une organisation collective dont il faut s'adapter. Après, si tu arrives à les mettre, si tu as Mbappé et Bellingham qui arrivent à se mettre au diapason de ce collectif-là, effectivement, je comprends que Cheikh Kenza, il soit en confiance. Parce que même là, je vais commencer à avoir peur. Effectivement.
En termes de qualité,
En termes de qualité, et de top player, il y en a, mais comme on dit. L'organisation n'est pas peaufinée afin de rendre cette équipe enfin un peu plus tueuse, un peu plus dans les derniers 25 mètres ou 10 mètres à essayer de voilà de.
Merci monsieur. Pas grand chose à dire hein, FC Barcelone qui ont fait le nécessaire en s'imposant un but à 0 face au Rayo Vallecano.
Ils ont tenu. Ils lâchent pas la première place pour l'instant. Voilà. Même quand c'est pas abouti, ils gagnent donc. Pour l'instant, c'est bon pour eux.
Il y a un dernier classique.
Ou une carrue de Ludo, on peut dire.
Dans 5 journées, je crois, le classique.
Ah, donc c'est bien. Ça va être sympa.
C'est dans un mois.
Bah là, ouais. C'est un petit, juste un petit match de Barcelone et c'est décisif. Ça va être génial.
Ah oui,
j'adore,
tout près
ça,
de la
j'adore.
Fin, là, en plus, c'est bien. Là. Ouais.
Ah, j'adore.
Ouais. Betis Séville, qui sont inclinés face à l'Athletic Bilbao.
Bah, l'Athletic Bilbao qui revient.
Ouais,
qui revient parce que. Franchement, cette année, elle était dure.
Elle est très dure. Elle n'est pas finie. Elle est très dure.
Elle est très dure. Donc là. Et le Betis, bah, qui a un petit frein quand même, parce que le Betis était sur une bonne lancée aussi.
Ouais, aussi. Ouais.
Donc,
Villarreal qui sont imposés 3 buts à 1 avec un but de Nicolas Pépé. Hein. Mmh. Nicolas Pépé, lui, qui n'a pas été pris avec la sélection ivoirienne dans un premier temps. Mmh. Dans un premier temps, il n'a pas été dans la liste.
Il n'a
pas été dans la liste dans un premier temps et a été rappelé suite au forfait de Yann Diomandé. Petit aparté hein, sur Nicolas Pépé. Hein. Mm. Est-ce que vous pensez que Nicolas Pépé a bien fait d'accepter la sélection et de revenir en sélection suite à ce qui s'est passé dernièrement?
Ouais, moi je crois que oui, c'est un bon choix. C'est un bon choix pour lui, pour son moral. Parce qu'on a vu que voilà, c'est la dernière Coupe d'Afrique, c'était l'un des artisans majeurs. Il a apporté son expérience et c'est quelqu'un qui a du vécu. Il y a longtemps qu'il est dans la sélection. Je crois que ça va lui permettre un peu voilà, de se remettre en question un peu, d'essayer en fait de dire que voilà. Peut-être. Il y a certaines interviews qu'on n'a pas à faire, mais je ne suis pas du même avis que les autres. Peut-être que certains diront que c'est extra-sportif, qu'il n'aurait pas dû dire certaines choses. Mais après son retour, je crois que ça sera bien vécu dans le groupe, parce que c'est quelqu'un qui est apprécié au sein du groupe, donc il n'y a pas de problème.
Ouais, non, c'est une bonne chose. Il fait une belle saison. Après, je pense que
lui qui a dit, excuse-moi de te couper, Lucas, je rajoute juste des éléments. Mmh. Lui qui a dit en interview dernièrement, il a fait une nouvelle interview après ça encore, et où il disait que s'il fait, qu'il ne regrette pas déjà sa première vidéo, et que même s'il fait la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, lui, c'est terminé pour lui.
D'accord.
Voilà, il l'a dit clairement. Il a dit, moi, si je reviens là, c'est la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, terminé. Ce qui s'est passé, etc., ça m'a énormément affecté. J'ai vu que la fédération n'a pas pris mes patins.
Justement.
Le président non plus et le coach non plus, en tout cas ça arrivait trop tard.
Faut se rappeler de la polémique aussi. Voilà. Des fois les joueurs ils sont un petit peu c'est jamais ma faute, je sais pas ce que leur dit leur entourage, j'ai quand même l'impression qu'ils mesurent pas
les propos en fait.
Non, après pour moi le fait qu'ils reviennent
au vestiaire, je veux dire.
Ah ouais, c'est ça.
Pour moi il fallait pas qu'ils reviennent. Ouais, parce que
le coach, est-ce que ça n'est pas déjà le coach, parce que le coach déjà qui dit ce n'est pas suite à l'interview qu'on l'a pas pris.
Non, mais
tu le prends pas et tu fais suite. Or que Nicolas Pépé dernièrement il est bon.
Et Mersfa, il avait quand même dit si c'était uniquement sportif, je le prendrais. Donc il dit quand même que c'est un truc
Non, ça c'est la première fois. Mais là maintenant, pour cette liste-là, il a dit je ne l'ai pas pris et ça n'est pas suite à sa vidéo, même si j'aurais aimé sa vidéo.
Ça devient plus haut pour moi.
En vrai, c'est plus haut pour moi.
Oui, mais alors pourquoi tu le prends derrière?
C'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Ça s'est calmé. La polémique.
Non, parce qu'il y a une deuxième vidéo apparemment.
Il y a la polémique sur les Marocains avant d'aller au Maroc et surtout le fait, je sais pas si vous connaissez cette histoire.
Excusez-moi, monsieur.
Le fait de dire que les Burkinabés.
Excusez-moi, il y en a qui nous écoutent, mais ne savent pas de quoi on parle, en tout cas. Pépé, on rappelle un peu entre guillemets, on va pas sortir mot pour mot, mais en tout cas, entre guillemets, Pépé a dit que le Maroc, eux, n'ont pas gagné de CAN depuis plus de 50 ans. Ouais. C'est quand leur dernière CAN, c'était en 76. Ah ouais, leur CAN, elle date de voilà.
Il a fait une blague dessus, effectivement, il les a un peu charriés. C'est très mal passé, mais pour moi, le vrai problème de cette interview, c'est ce qu'il a dit sur Alban Lafont, le fait que ça burkinabé. Ouais. On sait que le président ivoirien,
il y a des polémiques.
Il y a des polémiques. Ça, comment dire, Ouattara, ses opposants l'appellent le burkinabé. Il y a une vraie tension par rapport à ça. Mm. Et en fait, il a juste pas du tout calculé ce qu'il disait. Et en fait, des fois, il y a des retombées qui sont politiques.
Je pense qu'il a pas vu jusqu'à
l'ampleur.
Ça dit aussi quelqu'un qui, tu vois, des fois, les Binationnés ne connaissent pas aussi bien leur pays d'origine qu'ils le pensent. Je pense qu'il y a ça qui
est.
Exactement. Parce que vraiment, c'est une vraie question en Côte d'Ivoire.
Pourtant, Pépé, lui, qui disait, lui, depuis le début, il a choisi la France. Il disait même.
La
Côte d'Ivoire, pardon.
Et que lui-même,
depuis l'équipe des jeunes, il allait là-bas en U20 déjà pour jouer.
Ouais, très tôt.
Quand il était arrangé,
là. Avec la génération de caissiers.
Et ça, c'est très rare des Binationaux qui vont en Côte d'Ivoire, surtout quand c'est pas l'équipe première. Non, mais surtout pour l'équipe. Non, qui vont même aujourd'hui, c'est
l'équipe
pas pour l'équipe première. Non, ils vont pour
les Algériens
et
les Marocains, ils le font tous en ce moment. Tous les espoirs marocains,
en
algériens.
Ce moment, oui,
de,
en ce moment.
Les Congolais, tu vois, ils arrivent aussi.
On parle de l'époque de Pépé.
En tout cas, l'époque de Pépé, en tout cas, ça n'arrivait pas. Pépé est allé là-bas.
Ça n'arrivait pas, je suis d'accord.
Et il a même dit, je me suis mis d'une part où, quand je partais là-bas pour le truc, moi j'avais une crête, etc. Je jouais avec ma crête ici. J'ai rasé ma crête, etc. pour arriver là-bas le plus simplement possible et pour jouer pour mon pays que j'aime tant. Et moi, c'est pour ça que j'ai joué et c'est pour ça que j'ai retrouvé cette truc. Donc, même si demain je faute, j'aimerais que derrière on me serve de matelas où on me dit voilà, petit, tu as fauté, il n'y a pas de souci, mais on t'apporte quand même notre soutien.
Et là, c'est limite. Mais maintenant, si ça n'était pas Diomandé, il revient, il sait comment?
Bah, il va pas jouer, mais Diomandé, il est trop fort.
Oui, moi, bah, justement, donc du coup, là, il revient pour rien, quoi. Ok, il a dit après la Coupe du Monde.
Mais on fait bien, écoute, ça dépend. Si tu penses à. Moi, je pense que quand même, une place de remplaçant pour la Coupe du Monde, elle est toujours atteignable.
Non, pas pour Pépé.
Pas pour Pépé.
Comment ça?
Surtout que ça
donne par rapport à son ego énorme.
Non, parce que.
Non, c'est un joueur de rotation quand même.
Quand tu vois là.
Même sa qualité.
Tous les joueurs offensifs de Côte d'Ivoire, Pépé, il fait partie du.
Du gars,
top 1 ou top 2.
Surtout quand
actuellement,
en termes
de
stats
que j'ai demandé, il est meilleur et joue à son
poste. Oui, après.
Surtout quand ils sont partis à la CAN. Surtout quand ils sont partis à la CAN, oui, mais Diomandé.
La Dingra, il revient bien.
En fait, le problème, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes.
Diomandé a cette expérience que Pépé n'a pas. Et avec la Côte d'Ivoire, Diomandé n'a pas fait une très belle CAN.
L'inverse, oui. En fait, c'est ça. C'est que des jeunes en Côte d'Ivoire.
Il n'a pas cette expérience que Pépé a avec la Côte d'Ivoire. En tout cas, Pépé est meilleur avec la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui.
Oui, au milieu, ils ont des cadres. Ils ont les cadres au milieu.
Il n'a pas cette finition. En plus, Pépé, c'est un champion. D'Afrique.
C'est ça le problème.
Quand on regarde. Non, il n'y a pas que y a pas que l'aspect champion. Mais Pépé, c'est l'un des rares joueurs qui a au moins dessus en équipe nationale.
Oui, c'est ça.
Ouais, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ouais, faut pas qu'on regarde aussi.
Il voilà, le maillot, quoi, à chaque fois.
Ouais, mais juste sur la canne gagnée, c'est propos. Pas lui qui est un des protagonistes principaux. Hein.
Ouais, c'est non, pas un protagoniste.
Il a l'air. Et même Adingra, je l'ai mis largement devant Pépé sur le rendement.
Oui, oui.
Mais en tout cas, Pépé en a fait partie. Voilà, en tout cas, on va juste conclure ces trucs. On verra après le rassemblement de ce que déjà
que ça va donner,
lui-même, parce que c'est possible qu'il refasse une interview derrière. Hein.
Mais nous, on aime bien, en tout cas. Faire,
ah non, sur une Coupe du Monde, non, ça va être compliqué,
ça peut
c'est
pas
sûr.
Le faire. Mais dans un groupe pendant un mois et demi, sur le bazar comme ça.
Oui.
Il y a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés dans des groupes de Coupe du Monde uniquement pour ça. Pas,
mais après, lui, ça, s'entend
ouais,
après,
ouais.
Après lui,
pas
lui s'entend. Après lui,
pas
s'entend
sur leur talent, mais sur leur comportement. Hein.
Après lui, il s'entend très très bien avec ses coéquipiers.
Pas tous,
ses
pas tous.
Non, même pas avec Albon Lafont. Ce qu'il a dit, à propos d'Albon Lafont, si vous voulez, je peux rajouter juste un petit
très rapidement.
Parce qu'il y a un truc que les gens oublient, en fait. À l'époque, la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta, c'était un même pays qui avait en fait les mêmes députés. Du côté de la Côte d'Ivoire, il y avait Ouzin Koulibaly, de la Haute-Volta plutôt, et de la Côte d'Ivoire, Félix Oboy. Donc en fait, qu'on le veuille ou pas, ces pays-là, ils ont un brassage culturel. Mmh. Et il n'y a qu'à l'indépendance que voilà que la France avec De Gaulle, ça sera décidé de faire la sécession. Sinon, c'était un même pays qui avait en fait la Côte d'Ivoire s'étendait jusqu'à en fait d'Abidjan jusqu'à Bobo-Dioulasso jusqu'à Ouagadougou. Donc les propos de Pépé, c'est pas des bons propos. Je crois que peut-être Albin Lafont,
politiquement la portée même.
Albin Lafont, peut-être que voilà dans son arbre généalogique, il y a du sang ivoirien, chose que Pépé ne sait pas. Donc généralement, il peut avoir
mais
peut-être.
Non, mais la blague, le problème, c'est pas Lafont, c'est ce que ça dit.
Parce
sur,
que même il le dit dans il le dit Lafont, il a dit, en fait, il rigole de ça dans le groupe.
Je pense qu'il y a aucun problème.
Pour moi, pas de problème.
Aucun problème parce que comment il l'a dit, en plus, c'était vraiment enfantin. C'est à aucun
moment.
Voilà, c'est ça.
À aucun moment,
c'est juste
pense,
l'ampleur que ça a pris
voilà,
parce que derrière
voilà,
c'est ça
je
que
je pense qu'à aucun moment il a voulu
non, dénigrer ou
aussi
non,
fort ou dénigrer non, ou quoi que ce soit et je pense pour vous dire réellement les choses hein, aussi après je peux me tromper hein, mais je pense que si la CAN ne se déroule pas au Maroc je pense qu'il y va aussi
ouais il y va il y va
je pense qu'il y va si la CAN ne se déroule pas au Maroc je pense qu'il y va je pense qu'ils le prennent pas parce que la CAN se déroule au Maroc et ils se disent pour ne pas être avantagé etc beaucoup de choses. Tu sors. Je pense il a sorti une vanne sur le Maroc comme il a sorti une vanne
mais tout
sur
à fait, moi je trouve qu'il y a rien de méchant dans cette interview, je suis d'accord avec toi. Par contre, il y a un truc, c'est quand même avant, une fois qu'il part, ce qui est récupéré, c'est Wilfried Zaha, qui joue aux États-Unis, qu'on pensait tous hors des radars, parce que lui aussi dans le groupe, il est plutôt apprécié. Et je te rappelle une vidéo qui était sortie pendant la CAN en Côte d'Ivoire, où tu vois Pépé qui fait du bazar la nuit, et Aurier qui revient pas très content. Donc moi, je suis pas sûr qu'il soit en super ambiance avec tout le monde, Pépé dans le groupe. Je sais que. C'est un vestiaire qui vit plutôt bien de ce qu'on sait la Côte d'Ivoire, mais je suis pas sûr que non plus ce soit le plus populaire du vestiaire et que donc quand Emers Faye doit prendre la décision de l'exclure ou pas du groupe, je pense que il voit plus d'éléments pour que d'éléments contre aussi à cause de ça.
Moi je suis pas du même avis.
Non, en tout cas, on va relancer. Merci Lucas, en tout cas, pour ces petites précisions. On va tout simplement se faire une petite virgule avant de revenir avec la Première Ligue. Hein. La Première Ligue, Liverpool qui s'incline 2-1 face à Brighton et qui lâche des points importants. Tottenham s'incline à domicile 3-0 face à Nottingham Forest. Aston Villa renoue avec la victoire et s'impose 2-0 face à West Ham. Manchester United qui ont été tenus en échec face à Bournemouth. On y revient juste après. Chelsea qui se sont fait corriger à Everton, hein, face à Everton, 3-0 tout simplement. Newcastle s'incline 2-1, hein, se fait remonter face à Sunderland, eux qui ont mené, qui menaient à la mi-temps tout simplement. Messieurs, pas grand chose à dire, hein, faudra qu'on fasse très rapide aussi, mais Liverpool qui se sont inclinés face à Brighton.
Moi, je crois que les Reds, ils ont un peu pêché, un peu revenu un peu dans le travail il y a déjà quelques semaines. Je crois qu'ils ils sont pas dans la constance.
Excuse-moi, Toko, mais est-ce que Arno Slot aussi n'est pas fautif là, après avoir gagné 4-0 très largement face à Galatasaray? Pourquoi il ne reconduit pas la même équipe et il essaie une tactique avec des formations assez bizarres où on comprend pas trop et finalement c'est ce qui leur coûte tout simplement le match. Hein.
Ouais, moi je crois que oui, comme tu dis, Arno Slot, je crois qu'il est un peu pêché un peu dans ses choix tactiques et tout. Et après, en voulant tout temps réformer, on n'arrive pas à trouver en fait la bonne recette, voilà, pour servir en fait de quoi pour garnir la table, donc ce qui peut peut-être à le déphasage. Et je crois que ça fait mal de voir Liverpool vraiment perdre des points comme ça bêtement face à des équipes, voilà, Brighton quand même, même si c'est pas mais je crois que Liverpool, ils avaient tout vraiment pour les éteindre et ils sont en train de perdre des points, voilà, même si vraiment c'est que la course à l'Europe elle est disputée.
En fait, quand tu vois la Première Ligue cette année, franchement, elle est pas ouf.
Elle est pas ouf.
Franchement,
tous les 10 ans, il y en a une.
Tout le temps, il y en a une. Chelsea qui se sont fait corriger face à Everton
3-0. J'ai vu le match en plus. Franchement,
catastrophique.
C'est
catastrophique.
Ouais, les Toffees étaient meilleurs dans tout, que ça dans l'aspect défensif.
Et les Toffees qui étaient dans le bas du classement, qui est à 3 points de Liverpool.
Bah alors, ils sont devant Chelsea parce que Chelsea sont derrière Liverpool.
Non, Chelsea est encore devant Everton, mais ils sont collés.
Ah, donc ils reviennent
à Roubaix, c'est beaucoup d'écart. Et même quand tu les vois en Europe, City qui se prend 5 buts, le Chelsea qui se prend 8 buts.
Est-ce que c'est pas un problème global à la Première Ligue? Moi, je me suis posé cette question.
Je pense que c'est trop d'intensité.
En fait, c'est pas que ça. C'est qu'au début, tu vois, il y avait un top 6. Ça veut dire que les meilleurs joueurs, ils allaient tous dans le top 6. Et du coup,
top 4 déjà.
Il y avait le top 4, top 6. Ouais. T'as bien raison. Mm-hmm. D'ailleurs, t'as raison. C'est un top
4. Le Big Four.
Le Big Four, comme on l'appelait. Exactement. Donc, tous les meilleurs joueurs étrangers, ils allaient là. Maintenant que tous les clubs sont super riches, en fait, t'as des top players. Plutôt que d'aller dans les meilleurs clubs, ils vont à Aston Villa, à Nottingham Forest, etc. Et en fait, c'est un peu dilué. Et je trouve que les effectifs des meilleures équipes anglaises, elles sont pas si fortes par rapport à des équipes un peu plus bas.
Un peu plus moins, ouais.
Arsenal, ils ont un effectif très très fourni, mais ils n'ont pas des top joueurs à chaque position pour moi.
C'est, en fait, que ce soit Arsenal, City ou par exemple Chelsea, en fait, ils ont des top joueurs, mais qui ne répondent pas sur le terrain.
Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je pense que ça. Parce que Arsenal, ça fait 10 ans. Arsenal, ça fait 10 ans qu'on dit que Saka, c'est la pépite anglaise.
Voilà, il fait rien.
Qui doit exploser, il n'a jamais explosé.
Foden à City, c'est pas.
Il n'a jamais explosé. Il fait une saison moins bonne que les autres.
Non, très mal. Elle est mauvaise, Saka. Ça fait 2 ans, mais elle est mauvaise, Saka. Elle est mauvaise, sa saison. C'est pas moins bonne, elle est mauvaise, sa saison.
Après, il a été blessé.
Où tu joues en tant que champion, mais il est tout le temps blessé.
Oui, c'est ça le problème. Mais même là, en 25 matchs. Dernière, il a loupé 3 mois. Là, il est toujours blessé.
Non, mais excusez-moi, en 27 matchs, il a peut-être 5 buts, il passe décisif. Or, qu'il tire les corners en sachant le nombre de corners qu'il tire Arsenal. Non, mais faut arrêter. Et il tire les pénalties. Non, mais faut arrêter. Non, faut arrêter juste 2 secondes. Je pense que Saka est surprotégé depuis le temps. Je pense que ça
est surcoté.
En voyant tous les matchs d'Arsenal, je pense vraiment que c'est pas le problème d'Arsenal qui se situe au-delà de Saka.
Il est mauvais, en tout cas. Ah, franchement, en tout cas, faut le dire. Et moi, je le dis parce que c'est un joueur que j'adore voir jouer au football. Mais franchement, là, ces derniers temps, c'est horrible. Ouais, c'est tout horrible. Simplement, il fait toujours la même chose.
Mais je préfère même qu'il mette Madueke que lui.
Mais Madueke,
au moins, il tente, il accélère. Saka, c'est la même chose. C'est pareil.
Exactement comme Odegaard, on se demande pourquoi. Deux joueurs qui deviennent les caricatures d'eux-mêmes.
Mais c'est ça, tous les gros. Quand tu vas à City, Foden, il était bon 3 mois.
Pardon, c'était pas clair, j'ai ça pour Arteta. Pour moi, c'est Arteta qui l'a fait devenir comme ça.
Excusez-moi, messieurs, on va juste basculer alors sur la cabane. Carabao Cup, hein. Manchester City face à Arsenal. Manchester City qui sont imposés 2-0. Philippe,
qu'est-ce qu'on avait dit?
C'est ce que tu disais. Oui, Philippe, c'est ce que tu disais.
Il y a quelques mois,
tu disais que tu voyais Manchester City battre Arsenal. Moi, je le voyais pas personnellement, surtout en vue de la dynamique là dernièrement.
Ouais, mais bon, voilà.
Ils ont perdu à l'Arsenal en plus. Tu vois le prévu qu'ils prennent.
En fait, Arsenal, moi, ça m'a pas étonné.
En plus, Arsenal,
ils cherchaient. Ouais.
Ils étaient les plus produisants, en fait, en termes de jeu. Ils ont des bonnes occasions. Oui, mais quand, ouais, quand on première... regarde le... Ouais, quand on regarde l'occasion de Kai Havertz, ouais, Kai Havertz, le cas qu'il a
loupé. Match, là, en tout début de match.
Ouais.
Bah, ça change le match. À la 8ème minute, là, ouais, bah, ouais, il rate une occasion énorme.
S'il la met vraiment, non, les Citizens sont plombés.
Ah ouais, mais à part cette occasion, en fait, Arsenal, ils font rien. Ils cherchent même pas. Ils sont là à tourner, mais il n'y a rien. À part la triple occasion qu'ils ont eue, là, il n'y a rien eu. Si c'est pas un corner, peut-être qu'on dit à Arsenal.
Trafford, lui qui avait fait des boulettes.
Ah, il a fait, par contre, il a fait trois bonnes arrêts. Très, très bonnes arrêts.
C'est pour ça que c'est dommage qu'Arsenal, qui est une équipe qui a plusieurs créateurs, on parlait d'Eze, on parle de Degarde. Ouais, Havertz aussi, c'est un profil de
en fait,
créateur.
En fait, il se noie avec tout ça.
Il ne crée pas. Il ne crée pas. Et c'est assez
agréable. Havertz, à un moment, il était très bon aussi offensivement. Après,
là, il revient d'une très grosse blessure. Pour moi, même le fait qu'il ait été repris en sélection allemande, je ne comprends pas trop. Laissons-lui le temps. Il faut. Les blessures comme ça, il faut le temps pour revenir à un top niveau quand même.
Je crois que l'intensité joue aussi avec les préparateurs physiques. Par moment, si je vais dans une équipe quand il y a beaucoup de blessés, disant moins quand on regarde les équipes anglaises, ils ont toujours une période de creux.
Trois en fait, titulaires dans des gros matchs, c'est pas possible.
Les périodes anglaises, ils ont toujours une période de creux où il y a toujours en fait minimum 5 joueurs qui sont blessés dans l'année.
Oui, parce qu'il y a des matchs très intenses comme ils disaient.
Même les équipes de bas de tableau, mais ça, c'est des choses à revoir. Parce que voilà, à la longue, ça leur porte préjudice. C'est préjudiciable.
Cette année, je crois que cette année, c'est le championnat anglais depuis les dernières années où il y a le plus de buts en coup de pied arrêté. Tout le monde fait des longues touches. Ouais. Tout le monde.
Tu vas aller plus loin ou même les gros chocs sont les moins passionnants. Oui, parce qu'on n'a pas eu tant de beaux chocs.
Franchement, c'est pauvre. Moi, je regarde. J'aime bien l'Angleterre, je regarde souvent, mais cette année, il n'y a pas un match. Ou bien les matchs qui sont bons, c'est Bournemouth qui joue contre une forte équipe.
Depuis que Ryan est arrivé à Bournemouth. Tu vois des petits jeunes, ça, Ryan, Ryan Junior à Bournemouth qui font plaisir, etc.
C'est des équipes comme ça, en tout cas, qui font plaisir. Et d'ailleurs, petite dédicace à Thiago, qui a été sélectionné pour la première fois avec le Brésil. Lui qui fait une très, très belle saison, tout simplement. Voilà, on va poursuivre. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec la liste de Didier Deschamps. Lucas, est-ce que tu as la liste, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me la trouver, s'il te plaît?
Je peux la trouver en 10 secondes après.
Voilà, juste après la virgule, on y revient et Lucas va nous donner la liste. 21h48, de retour dans les locaux de Montpellier FM. Nous allons parler de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui a fait des choix pas très surprenants, comme d'habitude. Il a fait du Didier Deschamps, Philippe.
Oui, d'une façon générale, oui, il n'y a jamais de très peu de changements. Bon, je pense que il a déjà pratiquement sa liste dans sa tête pour le mondial.
Il y a peut-être
ou deux ajustements à voir, mais je pense que voilà, il a déjà ça.
À part le calme blessure.
Youssouf Fofana qui n'a pas été.
Peut-être qu'il va être rappelé puisque Manu Koné a déclaré forfait.
Oui, voilà. Il
va pas en prendre des champs.
Il a dit qu'il va pas en prendre un de plus.
Après, j'ai vu sa déclaration.
Il a pris le joueur de
Lacroix. Défenseur central.
Il a pris Maxence Lacroix.
Après, il peut toujours y avoir un inattendu. Hein. C'est déjà arrivé. Mais enfin, je pense que...
Non, je pense pas. Je pense
qu'il veut les ménages.
N'Golo Kanté, tu penses qu'il ira...
Kanté, oui.
Alors, Kanté, il est pris.
Il va y aller, ouais.
Oui, il va y aller.
Il y va, il faut qu'il aille Kanté. C'est un groupe, c'est... Voilà, c'est...
Il va y aller, Kanté.
Oui, pour le groupe, Kanté, il ira, oui.
Du coup, pour la liste, Lucas, c'est bon pour toi?
C'est bon pour moi.
Est-ce que tu peux nous lister, tout simplement?
Les trois gardiens, c'est Maignan, Samba et Chevalier, dans cet ordre, avec Chevalier qui a été annoncé troisième gardien.
Troisième gardien.
Exactement. Les défenseurs, Saliba, Konaté, Upamecano, Gusto Digne, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Kalulu.
Oui, bah c'est du classique.
Donc, La Croix.
C'est ça. Donc il y a eu un forfait La Croix, mais je ne l'ai pas en tête.
Après Kalulu parce que Koundé n'est pas là.
Voilà. Ouais. Milieu, Tchouaméni, Koné qui n'est pas là, Rabiot, Zaïre Emery, Kamavinga et Kanté. Et en attaque, Mbappé, Dembélé, Doué, Olise, Cherki, Ekitike, Akliouche, Kolomouani et Thuram.
Voilà. Ouais.
Bah, compte tenu des absents, notamment la blessure de Barcola, c'est quasiment
le retour de Kolomouani.
Ouais, bon après ça c'est parce que c'est Deschamps, mais moi je l'aurais pas pris.
Oui, mais c'est parce que
il fait un bon match contre l'Atlético, il marque cette semaine avec Tottenham. Moi je l'aime bien.
Akliouche, il était pris.
Moi je préfère le personnellement, c'est très personnel, je comprends qu'on puisse pas être d'accord, mais je préfère la polyvalence et le profil de Kolomouani à celui de Thuram. Thuram fait pas une belle saison non plus à l'Inter, assez décevante.
C'est Boni qui joue souvent.
Du coup dans les deux, c'est ça. Et du coup dans les deux, je comprends plus Kolomouani dans l'esprit d'aider,
dans l'esprit d'équipe,
etc.
En genre Joker,
il connaît le groupe.
Thuram qui est bon pour l'atmosphère, je pense, du groupe.
Il y a des joueurs comme ça. Hein.
Apparemment, il est très populaire dans le groupe, mais quand il rentre sur le terrain, c'est.
Il y a des joueurs comme ça.
C'est ça qu'on regarde dans un groupe. Hein.
Oui. Deschamps fait beaucoup attention à ça. Tu
vois, l'ambiance.
Le match de foot l'an dernier, là, le France-Allemagne.
Il était formé par
Jacquet.
Le France-Allemagne, il marque Kolomouani en rentrant, tu vois. Ça finit à 5-4, je crois, pour l'Allemagne. Et Colomwany marque.
Cherki en fait, aussi qui a marqué.
Et un but magnifique d'ailleurs. Aussi, oui. Exactement. Et en fait, Colomwany, il arrive quand même à marquer ses buts en équipe de France, que Thuram n'a pas réussi à faire. Et je pense que ça a joué dans l'esprit de Didier Deschamps.
Marcus parce que Thuram, il a eu sa place. Sélectionné, hein.
Ouais, donc, il a eu sa place, mais il n'a pas pu la saisir.
Kefren Thuram, vous pensez que non? C'est trop jeune.
Moi, j'aurais mis.
Il y a même profil. Toi, il fait une belle saison, non, Kefren Thuram?
Moi, pour moi, au milieu de terrain, juste pour la méritocratie, moi, j'aurais pris Tolisso. Mais bon. Deschamps moi, avec Tolisso.
C'est Kamavinga que je prendrais pas malgré, oui. malgré tout.
Ouais. Mais après, moi, le milieu comme ça, c'est être le milieu qui va partir. Sauf blessure, c'est ce milieu-là.
Ouais, ouais.
Il va
après,
pas prendre.
Après, ça peut être normal, mais dans quelle configuration? Si c'est un 4-2-3-1.
Non, 4-2-3-1, il va faire.
Et bah, c'est parfait.
C'est 4-2-3-1, tu as Mille Kanté.
Le problème de Kamavinga, c'est lequel, Rabiot, par exemple, à la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde face à des blocs bas, ou peut-être des matchs où
oui,
là,
mais il
où
peut jouer en prolongation,
oui. Ah, oui, il est polyvalent, et Kamavinga, c'est quelqu'un, en fait, c'est un porteur de balles, on sait que oui, ils peuvent casser des lignes, ils peuvent apporter plus. Ah, moi, ce serait moi, j'aurais pris Kamavinga.
Effectivement.
À Kefren Thuram.
Je pense qu'il n'en a pas besoin. Après, il n'y a aucun des deux qui est pris là, donc là, la question ne se pose pas. Mais effectivement, si on parle sur un 4-2-3-1, avec une ligne offensive, on va dire Olise, Doué, Mbappé devant Dembélé ou qui tu veux. Il n'y a pas besoin d'un milieu qui chute, hein. Ils ont juste à passer la balle. Ouais. Ça, t'inquiète pas qu'ils vont faire le travail.
Rabiot, ou Tchouaméni Kanté,
mettez la pression, ressortez les ballons proprement. C'est ça qu'il fait. Et l'équipe, elle jouera, hein. J'ai aucune inquiétude. Donc peut-être pas besoin de ce profil-là. Et je comprends effectivement qu'ils maintiennent le Tchouaméni Kanté qui se débrouille très bien dans cette configuration.
Ouais, ouais, le Tchouaméni Kanté, c'est complémentaire. C'est complémentaire à l'autre vraiment. Voilà,
moi, je pense qu'il mettra Kanté.
Je pense que Kone va sauter.
Ouais, et il mettra Tchouaméni Kanté.
Au début de tournoi, parce que Kanté, après, il joue en Turquie, là, il est plus en Arabie Saoudite, donc ça peut faire une différence. Mais Kanté, on a vu sur toutes les compétitions récentes avec l'équipe de France, il commence très fort.
Après,
bah là, t'as Kone derrière.
Non, mais c'est pour ça qu'il peut le prendre.
C'est ça que je dis.
Faire du coaching avec lui, quoi.
Ça va être des beaux matchs, là. C'est Sénégal et.
Non, c'est Brésil. Non ?
Brésil et Colombie.
Ouais, Brésil et Colombie. C'est France, Sénégal, eux jouent au Stade de France.
Mais, Brésil, hein,
mais là, c'est Brésil-Colombie.
C'est Brésil-Colombie.
Brésil jeudi et
Colombie dimanche.
Dimanche, c'est ça, c'est exactement ça.
Ça va être des beaux matchs.
Ouais.
Oui, ça va être.
Messieurs.
Oui, bah écoute, c'est du classique. Donc, on attend ce Brésil-France et ce Colombie-France.
Donc, pour vous, Tolisso, comme tu as dit juste avant. Hein,
le grand absent
Non, il ne sera pas.
Il ne sera pas, c'est sûr et certain. S'il ne l'a pas pris là, il ne sera pas.
Dans ce qu'il a dit, ça montre qu'il n'a pas envie de le prendre.
Même là, regarde, il y a un blessé, il ne le prend même pas. Il ne va pas le prendre.
Non, mais bon, ouais.
C'est dommage pour lui, mais
est-ce qu'il y a un problème en off dont on n'est pas au courant?
Sûrement, à ce moment-là, je pense.
Oui, je pense qu'il y a un truc avec Tolisso, je ne sais pas c'est quoi.
Ça,
c'est
mais Tolisso qui
champion du monde 2018.
Non, il avait été champion du monde, mais après, il y a eu la grave blessure, bon, il est revenu.
Après aussi, il avait perdu sa place au Bayern.
Après, comme on a dit Deschamps, il aime bien son groupe. Est-ce que s'il ramène Tolisso, qui n'est pas titulaire, est-ce que Tolisso... Peut-être lui pense à ça, en fait.
Il a joué dans l'équipe de France, il a été champion du monde, il connaît. C'est un gars qui a un bel état d'esprit, ça, c'est pas un problème.
Après, quelqu'un aussi qui parle le passé, qui est un peu cas du vestiaire, en fait.
Il y a tellement de concurrence que, voilà, c'est compliqué, là.
Et puis là, il y a une nouvelle génération qui est en train d'éclore. Donc, il se dit que là, il faut donner du temps aux jeunes, parce que Tolisso, il a déjà eu sa chance, il a déjà gagné une Coupe du Monde. Donc, il s'est dit que voilà, vu qu'il est en train de construire un nouveau collectif, en fait, ça repasse de nouvelles bases.
Mais par contre, il est pas si vieux, Tolisso, en 94.
Les frères Hernandez, là.
Personne comprend, je pense.
Bon. Peut-être pour. Ouais, en fait, c'est encore pour le groupe.
Ça reste sur la notion du groupe.
Il n'y a pas beaucoup de choix à gauche, hein.
Ah. Oui, c'est vrai, à part Udol qui ressort, mais bon, tu vas pas le prendre pour la première.
Tu peux tenter un Truffert, je pense, en arrière-gauche.
Ouais, Truffert, il a déjà pris une fois.
Alors, on a joué Kamavinga, qui est genre arrière-gauche.
On va laisser tranquille le Kamavinga.
Non.
Mais c'est vrai.
Bon, Rabiot, on va pas le faire jouer arrière-gauche cette fois-ci.
Pas le faire jouer du tout, Rabiot.
Non.
Pas le faire jouer du tout.
Non. Donc. Parce qu'il y a moins de compétition.
Bah, tu vois, Rabiot, c'est intéressant d'en parler parce que Rabiot, il y a eu un problème extra-sportif, il l'a réintégré. Tolisso, on sait pas, mais qu'il le. Qui refuse à ce point de le faire jouer, ça montre qu'elle a raison. Il y a forcément un truc qu'on sait
pas. Mais bien sûr, c'est certain. Tolisso, ça fait un an et demi, il est performant.
Il y a un Guy Sourache, il le prend jamais.
Florent Thauvin, lui aussi, qui est pourtant bien. Thauvin, Florent Thauvin
Non.
Vous pensez que même avec blessure, il ne le prendrait pas?
Il y a trop de monde devant.
C'est trop fort ce qu'il y a devant lui.
Il laisse la place à la jeunesse.
Tu t'imagines, il y a Dembélé. Il y a Dembélé, il y a Désiré Doué, en fait. Il y a Barcola.
Tu vois ce que je dis? Tu vas pas mettre Barcola, en fait. Tu vas pas mettre un Barcola parce qu'il est moins indiscutable que les autres. Le laisser à la maison Barcola avec ce qu'il montre. Parce que Thauvin, c'est un cadre, parce qu'il mérite, parce qu'il a l'expérience.
Non,
prends les meilleurs. Et s'il faut rentrer à l'heure de jeu pour mettre une vitesse, je préfère avoir Barcola que Thauvin.
Bien sûr.
Parce que Barcola, il va. On et même a vu qu'il réagit bien quand il est sur le banc.
Je crois que même Barcola, pour moi, il est particulier. Hein.
Ouais, il n'est pas.
À gauche, pour moi, il est particulier.
Ouais, il sera pas dans le 11.
Non, mais
toi, tu vois Mbappé en pointe.
Mbappé en pointe. Il va mettre Mbappé en pointe.
Barcola, Cherki et Olise derrière.
Il va mettre Olise. Pour moi, Olise, Dembélé et Barcola.
Donc Dembélé en effet. Olise 10.
Pour moi Olise il est mieux à droite. Mais il va mettre Olise en 10 après, et Dembélé à...
Mais ça veut dire que du coup Doué et Cherki qui pourraient être les 10 naturels, ça veut dire ça fait beaucoup de joueurs.
Et même Doué il peut jouer sur le côté. Mais je pense que Barcola sur les dernières, Barcola est toujours titulaire.
Moi je crois qu'un Cherki en 10 aurait fait beaucoup de bien. Ça nous aurait fait beaucoup de bien, un Cherki en 10.
Je pense que c'est trop tôt.
Un Olise à droite, Mbappé en pointe et Ousmane à.
En fait, Cherki c'est Cherki où je pense là c'est le bon moment pour lui, c'est il rentre en jeu et là
voilà, c'est ça qu'il faut pas oublier aussi qu'il va prendre des choses, c'est qu'il va faire des changements et voilà.
Parce que Cherki quand il rentre à 60e
20 minutes 25 minutes mais s'ils sont décisifs c'est suffisant
Et pour Didier Deschamps avoir Cherki, Doué et Kitike sur le banc qui vont pas forcément avoir tu vois des rancœurs de pas être titulaire et qui vont tout donner sur 20 minutes,
bien sûr.
C'est pas n'importe quel joueur, hein, ça déséquilibre. Doué, tu vois les matchs qu'il fait, s'il doit rentrer à 20 minutes de la fin avec sa grosse frappe
et voilà, l'une des meilleures lignes offensives
que la France est, en tout cas en termes.
Non, mais
de...
même là, quand tu compares avec les autres pays, pour moi, la France,
bien sûr.
Ouais, en termes de vivier, en termes de talent pur, la France n'a rien à envier. Je crois que vraiment, cette Coupe du Monde, si on ne la gagne pas, peut-être ça soit des choix tactiques, soit des petits problèmes de compréhension au niveau du jeu. Mais je crois que, même s'il y a du beau répondant ailleurs.
C'est une expression collective aussi, tu vois. Si la France gagne en jouant mieux que tout le monde,
pour moi, la différence va se faire, c'est les joueurs phares vont faire la différence.
Ouais, l'attitude.
Ça va être ça. Si Mbappé est en forme,
peut-être que la blessure qu'il vient d'avoir, qu'il a éloigné 3 semaines, peut-être que c'est la meilleure chose qui puisse arriver
Excusez-moi, messieurs. Ouais. On va juste poursuivre. On va parler de la Coupe du Monde. On va recouvrir la Coupe du Monde en commentant les matchs de l'équipe de France, en poursuivant avec les avant-après-match, bien évidemment. À retrouver sur mon Paris FM. On sera en direct sur YouTube, sur les plateformes. En tout cas, on vous redira tout ça quand la date se rapprochera, mais voilà, on est en pleine préparation comme Philippe vous le dit. Nous allons juste poursuivre, on va se faire quand même une toute petite virgule avant de revenir avec la CAN 2026. La CAN
qui a gagné,
sujet polémique,
qui a remporté,
sujet polémique.
La CAN 2026, messieurs, on y revient juste après. CAN 2026. La CAF attribue la CAN au Maroc 2 mois après.
Non mais
personne ne comprend, je crois. Tu vois, on voit nos mines déconfites.
Dans les micros, s'il vous plaît. Quelles sont vos impressions, messieurs?
Non mais c'est une grosse blague. On est en pleine Ligue des Champions. Tu reçois une alerte 2 mois plus tard. Maroc est champion. Non mais.
Ouais non, ça n'a pas de sens.
J'ai le football. Je me remettais à peine du match contre Chelsea et depuis le PSG et j'apprends ça.
Si t'as une décision à faire, tu l'as fait le jour du match ou le lendemain.
C'est le foot africain comme ça. La CAN qui est complètement décrédibilisé.
Bah, mais bien sûr.
Pour moi, c'est le football mondial qui est décrédibilisé. C'est le football tout court.
Oui,
c'est pas
mais d'abord le football africain.
Moi, pour moi, c'est plus le football africain.
D'abord le football africain.
Parce que Infantino, qui est très proche de Motsepe, qui est proche de Legja, il a forcément une responsabilité là-dedans. Pour moi, c'est une fight organisationnelle qui pourrait arriver en Afrique. Quand tu vois ce qui se prépare à la Coupe du Monde, l'image du football, elle est déjà bien écornée.
Tu vois ce qui s'est passé là? Ça peut se passer qu'à la CAN. Ça peut pas se passer dans les autres.
Après, il y a des exemples sur d'autres compétitions où c'est arrivé, c'était pas la CAN.
Oui,
il y a eu des articles dessus.
Oui, mais il n'y a pas vraiment.
Mais il n'y a pas eu un match annulé comme ça?
Avec la Copa, il y a eu cette situation où l'Argentine est sortie du terrain.
Ah oui, à la CAF que ça peut arriver.
Il n'y a que à la CAF parce que tu sais pas comment c'est géré, il y a trop d'ingérence.
On sait comment c'est géré la CAF.
Oui, mais
on en parle.
Non, mais c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça.
Mais il y a un truc. Après, la Juventus avait été champion aussi en Italie, même si c'est pour corruption, etc. Mais la Juventus a été champion.
La Juventus a perdu son titre.
Non, mais la corruption, c'est de leur titre.
L'Inter les avait gagnés. Voilà. En France, il y a eu ni PSG ni OM en 99. Il y a eu des histoires comme ça où les
champions en titre ont été déchus. C'était pas à l'international.
C'est pas des histoires de vestiaire. Voilà, c'est
là aussi, pour l'instant,
c'est des histoires de vestiaire.
Il y a quand même plusieurs problèmes qui se posent avec ça. C'est qu'il y a déjà une commission qui avait rendu un verdict le 28 janvier. Et on ne comprend pas pourquoi la commission du 28 janvier, qui avait amené les premières sanctions, elles n'ont pas été confirmées. Là, les sanctions pour le Maroc, elles ont toutes été réduites. Ouais. Et en plus, on leur donne le titre. Ouais. C'est vrai que côté sénégalais et même en tant qu'observateur neutre, c'est assez incompréhensible de voir comment ça s'est passé. Le timing, le fait de remettre de l'huile sur le feu alors qu'on était totalement d'accord. Et aussi, on a cité les articles 82, 83, 84 sur lesquels s'est appuyé la CAF pour faire leur rapport. Je suis désolé, il y a des choses qui ne vont pas. Notamment, ça doit venir du rapport de l'arbitre. Il n'y a pas eu de rapport de l'arbitre
qui se
demande de la CAF. Et en fait, on se demande pourquoi est-ce que cette finale, elle n'a pas été gérée autrement. À partir du moment où on fait revenir les Sénégalais, que le match se termine et qu'ils ont la coupe, qu'ils ont gagné, que tout le monde a vu ce but de Pape Gueye, tu peux plus rien dire.
C'est
là,
fini.
Donc ils ont gagné sur le terrain, mais à cause du problème administratif, on va revenir.
Mais moi, je pense que
qu'il y a une information de taille qu'on n'a pas, en fait.
Il
y a une information de taille qu'on n'a pas, parce qu'en fait, l'arbitre, l'arbitre lui-même dit qu'il avait reçu l'ordre de remettre un carton jaune à l'équipe sénégalaise et d'arrêter le match définitivement.
Et pourquoi il
n'a
pas fait ?
Mais en fait, non, écoutez-moi,
parce que
sous pression, voilà, sous pression d'un membre d'instance de la CAF qui lui a demandé non de continuer le match et afin que le match soit abouti.
Mais en fait, déjà, il pensait à l'image.
En pourtant, en revanche,
et je pense qu'il se disait,
en pourtant, en revanche, le Sénégal a déjà été avantagé. Par ça, en pourtant, a déjà été avantagé face à cette décision. Quand on regarde bien pour les qualifs de la Coupe du Monde 2018, le Sénégal vraiment avait perdu un match face à l'Afrique du Sud. Et quand on regarde bien, le Sénégal est parti à la Coupe du Monde. Normalement, c'était le Burkina qui était premier, mais le Sénégal est parti à la Coupe du Monde parce qu'en fait, il y a un match que le Sénégal a gagné sur tapis vert. Non, je crois que l'instance de la CAF n'est pas vraiment à décrire. Et peut-être que oui, c'est, il y a avec Motsepe, il y a une mauvaise gestion. Non, si les articles sont là, si les articles sont là.
Oui, mais attends, t'as oublié un article. Il y a un article qui te dit, l'article 5, qui dit que l'arbitre, il est maître du jeu.
Absolument.
Si l'arbitre décide de reprendre, on fait l'arbitre.
Oui, c'est l'arbitre, elle met du jeu. Mais est-ce que tu sais aussi que. Qu'il y a un autre article qui déduit que quoi qu'il arrive, en fait, les joueurs sont interdits de sortir du terrain.
Oui, oui ça, je suis d'accord, mais maintenant, quel article prend le
match. C'est énorme, en fait.
Il avait cassé à la fin du match.
Moi, je suis pas, en fait. Moi, je suis pas pour cette décision de la CAF.
Excuse-moi,
je suis pas pour cette décision de la CAF.
C'est bien comme ça que ça aurait dû se terminer.
L'arbitre
aurait dû siffler la fin du match, tout simplement, en disant on ne reprend pas.
En plus, il y avait des bagarres derrière.
Oui, en plus, ouais. Voilà, point final. Là, il décide la reprise du match. Il arrive sportivement. Et puis, point final, quoi.
Mais c'est Moussa qui a raison. Je pense qu'il pensait qu'il allait marquer son pénalty.
Oui,
mais
bien
sûr. Jamais imaginé que ça se passerait comme
Ça. Bien sûr.
Mais moi, pour moi, c'est un scandale
que.
Tu
peux vous lire les articles qui s'est passé.
Effectivement, je peux vous lire les articles concernés. Donc, c'est 82, 83, 84. Le 82, c'est si, pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, ou refuse de jouer, ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par décision de la CAF. 83. Une équipe qui ne se présentera pas sur le terrain en tenue de jeu à l'heure fixée pour le coup d'envoi ou tout au plus 15 minutes plus tard sera déclarée forfait. Juste comme ça, Brésil-Argentine 2023, c'était ça.
Ouais.
Et il n'y a pas eu le four.
C'est alors déjà arrivé.
Voilà. Et l'arbitre est tenu d'enregistrer l'absence de l'équipe et de noter sur son rapport. Le cas sera soumis à la commission d'organisation qui prendra la décision finale. Et c'est ça le problème. C'est le rapport de l'arbitre. Je finis 84. L'équipe qui enfreint les dispositions des articles 82 et 83 sera définitivement exclue de la compétition. Elle perd le match 3-0. Si l'équipe adverse menait par un score plus avantageux au moment de l'arrêt du match, le score sera maintenu. D'autres mesures pourront être prises par la commission d'organisation.
Il y a aussi cette règle qui dit que, tout simplement, je ne sais pas si tu as eu l'article ou pas, mais en tout cas, il y a eu cette ligne aussi qui dit que, tout simplement, l'arbitre qui prend l'arbitre qui ne tout simplement ne punit pas, ne sanctionne pas une décision ne peut être sanctionné derrière dans les tribunaux. Ça n'existe pas. Parce que l'arbitre est homme du match et c'était à lui de faire le nécessaire.
Surtout,
à partir du moment où le nécessaire n'a pas été fait sur le terrain, le Real,
Sénégal,
le Sénégal tout simplement est vainqueur de la CAN. Malgré ça, ils peuvent derrière avoir des amendes comme les amendes etc mais ils ne peuvent pas être déchus de leur titre. En tout cas le résultat du match ne peut être qu'un changé. Voilà.
Et en plus,
c'est contradictoire.
Les articles que tu as
c'est malléable, comme on dit, c'est malléable.
Si l'équipe part, toute l'équipe n'était pas partie.
Non, toute l'équipe.
Non, donc, ça, d'accord,
est-ce que ça rentre en.
Ça rentre pas parce que tu connais les règles. S'il y a 4 joueurs, ils risquent. Enfin, il y a moins de 8 joueurs.
D'accord.
Et comme ils sont quasiment tous rentrés, il restait quoi, Sadio Mané, peut-être Pape Gueye, 3
joueurs. Oui, c'était 3 joueurs.
Ça ne peut pas compter. Par contre, le problème, c'est encore une fois le rapport de l'arbitre. L'arbitre, comme l'a dit Eladj, il les met sur le terrain. Il a décidé de ne pas notifier les intentions. Comme tu l'as dit toi, parce qu'il y a eu un officiel de la CAF
qui lui a dit.
Chacun prend ses responsabilités.
Parce que normalement,
il n'a
pas interféré en plein match.
Moi, je pense.
Donc, ça montre que déjà, il y a une certaine corruption et ça montre qu'au niveau de la CAF, en fait, la gestion est douteuse et qu'il y a plein d'ambiguïtés.
Ils ont plus pensé à l'image que vraiment à respecter les règles
sur le sport de la CAF. Moi, je pense que, après, bon, c'est une supposition. Mais parce que la prochaine CAN, on ne sait pas c'est où.
Normalement, ouais, en 2027.
Normalement c'était Tanzanie, mais il paraît qu'ils sont pas prêts.
C'est toujours confirmé.
C'est toujours confirmé.
Ils disent que l'Ouganda a des gros problèmes et la Tanzanie ont des gros problèmes de retard, mais ça reste Kenya, Tanzanie, Ouganda, les trois pays organisateurs. En 2027,
non.
En 2028.
Non, 2027 et après 2028.
Pourquoi tu penses après 2028, que ça va être au Maroc, c'est pas une belle image. Hein. Alors là, je peux te
dire. Maroc quoi. Était, si jamais la Tanzanie ne voulait pas, Maroc voulait reprendre la CAN.
Je crois que c'est
exactement. Ouais, mais ils ont boudé comme ils ont boudé pour la CAN féminine. Mais juste, je vais absolument dire un truc. Les gens, en fait, le problème avec ce rapport deux mois plus tard, c'est aussi qu'on nommait le contexte de ce match. L'arbitre, s'il laisse aussi facilement les Sénégalais rentrer au vestiaire, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a des violences dans le stade.
Le stade
entier a les yeux rivés sur les bagarres entre les supporters sénégalais et les stadiers. Mais en fait, le match ne peut pas reprendre. Il y a des gens qui sont sur le terrain, etc. Donc en fait, dans ce contexte-là, que les joueurs
auraient dû arrêter.
Arrêter.
Ça aurait pu être ça.
On arrête 45 minutes, une heure.
Quand il y a un cas force majeure, fumigène, bagarre. On l'a vu en Ligue 1 il y a encore moins d'une décennie avec les matchs en Corse, avec Lyon qui était parti totalement cacahuète. Donc en fait, on oublie cet élément parce qu'il explique beaucoup de choses. Il explique pourquoi l'arbitre il est dépassé. Parce que l'arbitre il prend des bonnes décisions. Mais il voit qu'en fait, les joueurs arrêtent de jouer. Le stade n'est plus concentré sur le jeu. Le stade regarde l'énorme bagarre qui concerne des centaines de personnes.
Et en plus, c'était violent.
C'était violent. Il y a quelqu'un qui a été blessé. Il y a eu même des fausses rumeurs, on l'a dit ici, qui étaient fausses, mais sur sa mort, comme quoi on a essayé de jouer là-dessus.
Oui, et en fait, stadier qui était
ce qui était une fake news. Que le Maroc réorganise une carrière.
Ah, ben moi, pour moi.
Ils ont montré qu'ils n'avaient peut-être pas la capacité.
Moi, je crois que même en termes d'organisation,
se battaient, ont piqué les serviettes.
Ça a été baissé.
Justement.
Saïbari, Hakimi, etc. Ils ont été baissés leur sentiment.
Je ne comprends pas, mais voilà. En tout cas, on va juste tout simplement clore le sujet. En tout cas, on va suivre ça de près. Pour l'instant, en tout cas, le Sénégal n'ont pas annulé leur match en face au Pérou le 28 mars, tout simplement, au Stade de France. Oui, ils vont présenter la Coupe. Pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas l'air de vouloir la rendre. Mais en tout cas, on va suivre cette histoire de près et bien évidemment on va en parler très prochainement dans les émissions à venir. On va se faire un petit quiz d'émission très rapide. Jason, c'est quand tu veux. Téléphone posé sur la table et retourné, bien évidemment. Quel joueur est le seul à avoir remporté la Coupe du Monde de la FIFA en étant capitaine et sélectionneur de son équipe?
Deschamps.
Non.
Dunga.
Capitaine et sélectionneur en même temps.
Carlos Alberto Pereira.
Non.
Attends, donc il était joueur, entraîneur-joueur.
Il a été joueur en Mateo. Même temps, entraîneur-joueur, il a gagné la Coupe.
Ah, Franz Beckenbauer.
Exactement, Franz Beckenbauer.
Je cherchais, c'est lui ou Brésil que je cherchais.
J'ai hésité entre lui et
Mateo. C'était lui ou...
C'est bien lui. En tout cas, il a dégainé en premier.
Ah, bien joué, bien joué.
Bravo,
jamais
été chez Cheikh.
Une victoire pour Cheikh. On poursuit. Quel club est le seul à avoir gagné la Ligue des Champions sans perdre un seul match et sans encaisser de but à domicile sur toute la compétition?
L'AC Milan
90-91.
Exactement.
L'AC Milan de Arrigo Sacchi.
Oui, de 93-94.
Très bien. C'est après ce game 4-0 contre le
Barça. Ah, Sacchi, il est.
Je pense qu'aujourd'hui, lui, il a.
Il est en pleine forme.
Attention, en tout cas, il est au taquet.
Je l'avais aussi, celle-là, par contre.
Quel joueur a marqué dans trois finales différentes de Ligue des Champions avec deux clubs différents?
Avec deux clubs différents, c'est Samuel Eto'o.
Eto'o. Non.
Avec trois finales de Ligue des Champions avec deux clubs différents.
Trois finales différentes avec deux clubs différents.
Trois finales différentes avec deux clubs.
Trois finales avec deux clubs.
Cristiano.
Bon, on connaît.
Cristiano Ronaldo. J'ai cru que ça allait aller très rapidement.
Tu sais, il y a tellement des grands joueurs que.
Un pour
Moussa. On voit tellement de matchs que bon.
Quel club détient le record du plus grand nombre de points sur une saison de Première Ligue? C'est Lucas qui l'a dit.
Ouais, il l'a dit.
Est-ce que tu peux me dire le nombre de points?
Moi, je l'ai.
102, 103
100. Quelque chose, je sais plus.
Moi, c'est 101 pour moi.
C'est 100.
C'est 100.
Okay. Ah, parce qu'en fait, on confond avec les Barcelone Real Mourinho, ça a flirté les 100 points aussi, je pense.
Ça a fait les 100 points.
Ça a fait
Avec Mourinho, ça a fait 102, je crois.
Ça a fait 102.
102 points avec Mourinho.
102 points.
Ouais, saison 2011-2012.
Ouais.
34 victoires sur 38, c'est n'importe quoi.
Voilà, mais on va poursuivre, messieurs. En Ligue 1, quel club français a terminé une saison de Ligue 1 invaincu?
Nantes.
Invaincu.
Ouais, c'est
Nantes.
Non, c'est 31 victoires, c'est pas Nantes.
C'est pas Nantes.
Ah bah, 31 victoires, ils perdent à la 31e.
Invaincu, un club.
Nantes 94, 95.
Non, c'est ça qu'on dit, ils perdent à la 31e journée. Nantes, ils ont
battu la 10 journée de la fin.
Non, il n'y a pas Marseille.
Non.
Invaincu,
c'est un ancien, ça doit être Saint-Etienne.
Saint-Etienne à son époque, non?
PSG.
Non, le stade de Reims.
Non.
Pas le PSG, pas Saint-Etienne.
Pas Nantes, pas Saint-Etienne, pas PSG.
Non, le Monaco.
Pas le Grand Lyon, pas Monaco.
Monaco 98.
Non, pas du tout.
Mais il n'y en a pas en Ligue 1.
Si.
S'il n'y en a pas en Ligue 1.
Bah non,
il n'y en a pas. Ça
justement, on était en train de les chercher. Là,
il n'y en a pas en Ligue 1.
Ou alors dans les années.
C'est la première fois qu'il nous fait la petite blague.
Parce qu'on était en train de les chercher, là, j'en voyais plus.
Non, il n'y en a pas. C'était ça la valeur.
Ça aurait été dans les années 50.
Il n'y en a pas. Ça fait 2 points pour.
Mais ça serait dans le foot.
2 points pour Cheikh, 1 pour.
Mais c'est vrai
que
tu avais une année failli.
Pour l'instant, Philippe, 0. Je vais donner un très rapide. Très facile même, on peut le dire.
Oui.
Quel joueur est surnommé El Phénomène?
El Phénomène, Ronaldo R9. R9.
Je sais pas si tu l'as dit en premier parce que t'as...
Oui, j'ai dit en premier R9.
El Phénomène, en tout cas, c'était Ronaldo Nazario.
Luis Nazario.
Le vrai Ronaldo, tu peux dire.
Oui, R9, c'est ça, El Phénomène. Et la saison 97, Ballon d'Or, tous les records égalés.
98.
Si, Ballon d'Or 97, 97, 98 Zidane, 99 Rivaldo.
Ouais, c'est bien.
C'est bien, c'est bien, Cheikh, c'est bien. Bien. Merci, en tout cas, Cheikh était en pleine forme. Ah oui, et voilà, bravo, lui, en tout cas, c'est imposé aujourd'hui pour le quiz. Bravo à Cheikh, merci à Cheikh pour ta participation. Merci à Philippe d'être avec nous ce soir. Hein. On espère se revoir très prochainement pour les prochaines émissions.
C'est bien, c'est tout le temps. On se prépare le mondial, hein, oui, donc
on se prépare.
On va s'en aller après, Philippe.
Et puis des matchs de Ligue des Champions du PSG aussi, il ne faut pas dire.
Aussi, on va essayer de mettre ça de près.
Il va falloir commenter le match du PSG et du Real aussi,
s'il te plaît.
Merci à Cheikh.
Merci, merci Lucas pour ta participation. Merci à Moussa. Merci à Jason à la technique. Hein, et merci à vous, nos chers auditeurs et auditrices qui nous suivez tous les lundis hein, à partir de 19h, hein, à partir de Mon Paris Sport jusqu'à au bout du foot hein, et jusqu'au bout de la soirée. Voilà. Et on espère qu'on se reverra la semaine prochaine pour du football, encore du football, toujours du football. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.